Kid. Imani l'idée, imani l'idée. La persuasion, le silence. Informer, informer. Cultiver, cultiver. Rigoureux, rigoureux. Pour savoir et comprendre. Mario Dumont.
Bonjour, bonne fin d'après-midi, bienvenue à Cube. Ben, ce sont des images, je pense, qui ont alimenté pas mal les discussions toute la journée, oui, aux États-Unis, mais ici aussi. Ce pont, le pont Francis Scott Key, qui s'est effondré, pont qui est un peu au sud-est, qui est pas en pleine ville de Baltimore, qui est vraiment un pont au sud-est, qui est fait sur l'autoroute I-695. Frappé sur un de ses piliers, frappé par un bateau, un énorme porte-conteneur. Et c'est, disons que quand on imagine là, le nombre d'années que ça prend à construire un pont comme ça, c'est toujours un choc de voir, ça avait été aussi vrai à ce compte-là pour le World Trade Center, de voir comment c'est facile de détruire là, en quelques secondes que ce qui avait été construit sur de longues périodes ben, se défait comme un château de cartes. Ça a été, je vais vous dire, bon, à part l'effroi de voir les images là-bas, les recherches, il y a toujours 6 personnes disparues, je vous avouerai, là, ça fait à cette heure-ci quoi 14, 15 heures, on dit que l'eau est à 7, 8 degrés Celsius, l'air durant la nuit était à 3 degrés, des gens qui sont tombés de quasiment 200 pieds de haut, peut-être dans un véhicule ou non, là, mais qui sont tombés du pont. Alors, on va se dire franchement que les probabilités de retrouver, même si le gouverneur, à cette heure-ci, le gouverneur de l'État du Maryland dit toujours c'est une opération de recherche et sauvetage, mais les probabilités de retrouver des survivants là, sont devenues, disons-le, très, très minces. J'allais dire c'était une occasion chez nous de repenser ou de revoir la sécurité de nos ponts. Tout de suite, ce matin, tout le monde s'est posé la question. On est quand même... Oui, Baltimore, c'est une ville entourée d'eau, avec de l'eau, en fait, surtout du côté est de la ville, mais c'est plein, plein d'eau autour, là, une ville maritime. Le Québec aussi, là, il y a beaucoup d'eau. Il y a le fleuve Saint-Laurent, évidemment. Montréal est une île sur le fleuve. Et donc, on s'est posé la question. Les gens qui font... les bateaux là, qui passent vers... la voie maritime du Saint-Laurent traverse 4 ponts. C'est ce qu'on nous rappelait ce matin. Eh bien, il n'y a pas de danger semblable, semble-t-il, au Québec. Dans certains cas, les ponts ont carrément les piliers qui sont, par exemple, pont Pierre-Laporte, là, les piliers sont sur la terre ferme, donc un bateau ne pourrait pas se rendre là pour aller le frapper. Le plus à risque étant peut-être le pont La Violette, mais où on a enroché, là, c'est-à-dire qu'on a mis une espèce de mur de roche autour des piliers, qui fait que si un bateau devait dériver et s'approcher du pilier, ben il reste frappé contre les roches, là, avant de frapper le pilier du pont. D'ailleurs, plusieurs observateurs, plusieurs experts du Québec, là, moi j'ai parlé ce matin à un ingénieur, j'ai parlé à un pilote du Saint-Laurent, là, les pilotes qui prennent les bateaux aux Escoumins, parce qu'après, les pilotes de partout dans le monde ne peuvent pas se promener sur le Saint-Laurent, il faut qu'ils me fassent monter à bord un pilote du Saint-Laurent, la loi l'oblige. Bien, les deux, l'ingénieur ou pilote du Saint-Laurent, trouvaient que les piliers du pont à Baltimore étaient bien peu protégés au point où ça les étonnait.
Mario Dumont, le seul atlas dont vous avez besoin.
C'est une... Ben, tu sais, il y a des métiers qui sont véritablement uniques, absolument uniques, que tu dis, ouais, personne qui fait ça. Il n'y a pas beaucoup de compagnons, il n'y a pas beaucoup de gens avec qui jaser de son travail, puis que la personne va dire, ouais, moi, je fais la même chose. Il y a un horloger, il y a un maître horloger à l'Assemblée nationale et on parle de lui parce qu'il prend sa retraite après 43 ans en fonction à l'Assemblée nationale. Il a accepté de nous parler à l'aube de sa retraite, M. André Vigée. M. Vigée, bonjour.
Bonjour, monsieur.
J'ai eu l'honneur moi, de siéger 15 ans à l'Assemblée nationale. Je veux dire, les députés, on croise pas souvent, on croise pas souvent à l'horloger, là.
Mais depuis 43 ans, on le croit souvent tous les mardis pendant 2 heures, 2 heures et demie, des fois 3 heures.
Ouais. Ouais, c'est ça. Mais parlez-nous de ce que vous faisiez comme travail. Pourquoi l'Assemblée nationale a besoin d'un horloger? Il y a plusieurs horloges importantes?
Il y a 23 horloges qui ont plus de 100 ans. Ça va jusqu'à 150 ans. il ça prend un horloger pour faire le tour des horloges. Sans ça, c'est tout le monde remonte son horloge dans son corridor, dans son bureau. Puis souvent, il y a plusieurs personnes qui la remontent. Et puis, à un moment donné, il y a personne qui la remonte. Et à un moment donné, on sait plus qu'à Québec, tout le monde met ça à son heure. La première fois qu'on m'a appelé pour un problème comme ça, je leur ai proposé que vous seriez bien plus rentable avec un horloger qui passe une fois par semaine, que ce soit le seul qui soit responsable des horloges, et voir à ce qu'ils tiennent leur juste, qu'ils soient bien entretenus, qu'ils soient bien plus propres. Et puis, ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd. On a réfléchi à ça, m'a appelé, puis d'ailleurs, ça s'est arrivé sur une occasion, c'est qu'il y avait une horloge grand-père, justement, dans le bureau du président de l'Assemblée nationale, ça faisait 3 ou 4 mois. Qu'elle était chez un horloger et n'était pas encore capable de promettre la date de livraison parce qu'il n'y avait pas les pièces. Puis c'est un horloge allemand, puis on est en 1981. Moi qui ai fait mon apprentissage à la sortie de l'école d'horloger en 60, d'un horloger des écoles françaises qui venait de la France, est arrivé à Québec en 37, là j'ai appris, ce monsieur-là, à sa bijouterie, à tous les ans, il allait passer un mois en France, qui connaissait la France, l'Italie, l'Allemagne, puis parlait un peu ces langues-là. Les pièces des horloges allemandes et autres, on avait les pièces de ça parce qu'on commandait directement aux compagnies. Alors moi, quand je suis arrivé, j'ai vu cette horloge-là. J'ai vu que c'était les câbles qu'ils n'étaient pas capables d'avoir. J'en avais même 3 modèles à des rouleaux, 3 rouleaux, 3 modèles différents. J'avais tout le matériel dans mon patron.
Pour arranger ça.
Il n'y a pas de problème, j'ai 100 pièces en stock. J'ai fait une loge.
Et c'est comme ça que vous vous êtes inséré un peu dans l'Assemblée nationale. Il y a quelques horloges, bref. Vous dites, il y a combien? 23 horloges en tout à l'Assemblée?
23 horloges mécaniques, oui.
Bon, il y en a quelques-unes quand même qui ont un caractère plus précieux que les autres, là.
Bien sûr, on va parler de l'horloge de la tour parce qu'elle impressionne tout le monde. Même moi, quand il l'a vu pour la première fois, j'ai jamais vu la mécanique d'un horloge de tour, que ce soit en Europe ou ailleurs. Il n'y a personne qui les voit. On voit des belles horloges en Europe, c'est extraordinaire, mais personne ne voit la mécanique.
Mais vous aviez vous aviez un escalier pour monter par en dedans pour vous rendre
dans... J'ai un escalier, juste l'escalier en colimaçon, il y a à peu près 125 marches. Pour arriver à l'escalier en colimaçon, je monte encore 100 de marches. Je peux en faire la moitié de ces marches-là dans les ascenseurs. Mais comme j'ai toujours voulu garder la forme, surtout les jambes, c'est depuis ma jeunesse que je veux garder la forme. Alors, je ne prends pas les ascenseurs, je monte les escaliers, je dois monter à peu près 600 marches pendant 2 heures de temps.
OK. Mais est-ce que l'horloge de la tour, c'est toutes les semaines? Est-ce qu'il faut faire l'entretien, vérification?
Ah, c'est une journée par semaine, je fais le tour des 23 horloges parce que...
Incluant monter dans la tour.
Ouais, c'est un client à monter la tour, mais les autres élèves, horloges, c'est des escaliers, c'est des escabeaux, mais ça devient une routine. Quand on a la forme de la santé, c'est surtout à l'Assemblée nationale, travailler à l'Assemblée nationale, c'est ce qui est le plus agréable. Des gens, là, sont courtois. L'Assemblée nationale, vous sortez de là, que soyez touriste ou visiteur, peu importe. Vous sortez de là, vous êtes content de rencontrer du monde super intéressant qui veulent vous rendre heureux. Et puis, mon travail là-bas, c'était ça à tous les mardis. J'ai jamais manqué un mardi pendant 43 ans.
Hey. Je reviens sur l'horloge de la tour. Elle fonctionne pas à pile. Est-ce qu'elle a un gros balancier? C'est une horloge mécanique à 100%. Est-ce qu'il faut la remonter?
Oui, c'est dans l'horloge mécanique à 100%. Elle a 143 ans. Et puis, elle n'a pas d'usure. Elle a toutes ses pièces d'origine. Elle garde l'heure à 15 secondes près par semaine. C'est une moi, je vais vous dire, quand je suis arrivé là pour la première fois, j'avais pas vu d'horloge mécanique d'édifice. J'ai dit, c'est une vieille horloge dans le terre de 3 ou 4 siècles, ça poissonne. Quand tu regardes ça de près, tu vois de la mécanique, il n'y a pas d'usure après 140 ans. Mais quand tu regardes ça de près comme horloger, tu vois, les pivots tournent sur des coussinets de laiton. Avec un tombillet, tu mets un peu de pression, tu vois l'huile rentrer comme dans un La vie d'automobile, là, comme il graisse, là, ça reste là. Les pivots, au lieu de tourner à friction sur du métal, ils patinent sur l'huile. Je pense qu'ils se polissent plus que s'user. Puis, il n'y a pas d'usure. Puis, je peux vous dire rien qu'une chose. Le métal, là-dedans, il est tellement dur. On a l'échappement qui est le cœur de l'horloge. L'échappement, c'est un encre avec deux palettes d'encre aiguisées d'une façon pour que pendant, quand vous entendez tic-tac, il y a tirage, poussé, puis chute. Et puis, les dents, il y a une dent qui vient frapper ces deux palettes-là à toutes les secondes et demie. Ça fait 143 ans qu'ils font ça. Il n'y a pas d'usure sur mes palettes, puis il n'y a pas d'usure sur mes dents. L'horloge. C'est vous dire la solidité, la dureté qu'il y a dans ces métaux-là. L'encharpement en métal, et puis, c'est là. Ensuite, un balancier.
Vous en parlez. Vous en parlez avec passion. Vous les aimiez, vos horloges, là? Du cœur?
Ça fait 60 ans que je suis dans la sortie de l'école d'horlogerie. Et puis, l'horlogerie, là, c'est ma passion. Là, j'arrête à l'Assemblée nationale parce qu'on a fini par trouver une relève qui est capable de me remplacer au moins pendant une décennie. Puis, ils sont compétents. Et puis, moi, j'ai mon atelier depuis 50 ans. Je pense que je répare les plus belles montres, les gens les plus intéressants à Québec. J'ai trop de belles montres. Avant les fêtes, en décembre, j'ai eu les cataractes. J'ai retrouvé mes yeux d'à l'âge de 20 ans. Alors, je pense que si je ne me mets pas à shaker, je vais réparer des montres en pendant 4-5 ans dans mon atelier.
Monsieur Vizé, merci beaucoup. Merci au nom de l'Assemblée nationale du peuple du Québec pour l'entretien soigneux et passionné. On le sent dans votre propos de nos horloges. Merci, au revoir.
Merci, monsieur.
André Vizé, l'horloger de l'Assemblée nationale qui prend sa retraite après des décennies de passion.
La fin du monde approche.
Mario Dumont.
Mais au-delà de ça, Mario, c'est le retour du schtroumpf grognon, là.
Mario, mon petit.
Il était pas de bonne humeur, pis ça allait pas comme il voulait.
La rencontre, mon petit Dumont.
Bonjour Marie.
Salut Mario.
C'est un questionnement pour bien des gens aujourd'hui au moment où on apprend que la SAAC, la Société d'assurance automobile, reprend avec ses partenaires cette hypothèse de reconnaissance faciale, donc de nous identifier là pour éviter la fraude, pour éviter les faux permis de conduire. Je sais pas combien il y en a.
Je vois que tu lèves les épaules.
Parce qu'on sait pas,
on se pose les mêmes questions.
On sait pas c'est quoi l'ampleur du problème, mais avec une reconnaissance faciale qui est quand même un moyen technologique assez fiable et reconnu, mais là, en même temps, on dit, OK, il va falloir qu'ils gardent ça dans des fichiers, la biométrie, les données biométriques de nos visages à chacun.
Ouais, tu sais, on peut penser qu'un jour, on va aller vers là plus globalement, là, au-delà de la SAQ, mais tu sais, c'est le genre de choses qu'on voit dans les films, la reconnaissance faciale, là, que tu passes dans la rue, là, puis pop, pop.
Ben, nos selles marchent avec ça. Ben, moi, mon sel s'ouvre avec ma face.
Exactement.
Mais là, un spécialiste me jurait, il dit, quand tu le fais, là.
Ça reste dans ton téléphone.
Ça va pas à Google, ça va pas à Samsung, ça va pas à Apple, ça va pas à personne. Ça reste dans ton sel.
C'est ce qu'on comprend de la nuance, qu'il y a pas un gros livre quelque part chez iPhone avec toutes nos petites photos de face, là. Mais, écoute, moi, je me posais la question, j'écoutais ça ce matin, puis bon, ça date de 2017, et puis je me demande toujours, moi, c'est quel problème qu'on essaie de régler quand on essaie de mettre des nouvelles affaires en place. Tu le mentionnes, ils disent, bon, tu sais, de la fraude, ce serait, si tu te fais, ce que j'en comprends, c'est genre, si tu te fais suspendre ton permis, tu pourrais aller dans un autre bureau de la SAQ, puis là, sous un autre nom, avec d'autres papiers, puis là, tu pourrais te faire un faux permis, mais là, la reconnaissance faciale empêcherait de faire ça parce que t'as toujours la même face, évidemment.
Mais en même temps, on n'a pas de données sur l'ampleur de ce problème-là. Est-ce que c'est 8 cas par année ou est-ce
moi,
que c'est vraiment...
Moi, j'avais jamais entendu parler
de des milliers,
ben
là,
j'avais jamais entendu parler de ce phénomène-là. T'sais, est-ce que ça veut dire qu'il y a un enjeu à la SAQ que des gens se promènent avec des faux permis de conduire, mais là, ça devient des fausses, en plus de ça, pièces d'identité? Est-ce que ça veut dire qu'ils peuvent ouvrir... T'sais, c'est-tu un problème de fond qu'on essaie de régler ou c'est comme il y a 4 personnes qui ont fait ça dans la dernière décennie? Là, dans
c'est marginal puis c'est tellement peu
c'est
que ça vaut pas la peine de tout virer à l'envers.
On se lance dans toute une histoire. Donc là, en tout cas, je regardais la demande qui était faite, entre autres, par le Parti libéral du Québec, mais bien d'autres aussi, tu sais, de dire est-ce qu'un débat peut être fait sur la question? Parce que je pense qu'il y a une responsabilité du gouvernement là-dessus d'expliquer cet outil-là, il va servir à quoi? Il va être utilisé comment? Je regardais entre autres aux États-Unis où ça a été élargi, les policiers peuvent y avoir accès. Donc, c'est quoi l'intention aussi? Est-ce que c'est que ça reste vraiment à la SAQ ou c'est éventuellement de l'élargir pour l'ensemble des cartes gouvernementales?
Si ça reste à la SAQ, la SAAC, semble-t-il, travaille beaucoup, beaucoup avec des consultants. En informatique, travaille largement avec des consultants. Est-ce que les consultants ont accès aux fichiers? Est-ce qu'ils partent avec les fichiers pour les entrer? Et c'est d'autres questions, parce que là, tu dis, OK, mais là, c'est plus à la SAAQ, ça se retrouve chez un sous-traitant de la SAAQ, qui est une firme informatique privée. Puis là, si cette firme-là perd son contrat avec la SAAQ 2-3 ans après, comment on s'assure que ramène-nous nos petites faces, là?
Oui, puis ce qui n'est pas rassurant là-dedans, c'est qu'Éric Kerr, tu sais, j'aime bien moi, parler d'Éric Kerr, aujourd'hui à l'Assemblée nationale, aurait pu nous rassurer et répondre à quelques questions, mais il fuyait dans les couloirs de l'Assemblée nationale sur ces questions-là. Donc, je me disais, est-ce que c'est parce qu'il n'a pas eu le temps d'aligner ses lignes de presse avec sa collègue ministre du Transport, ce qui s'est déjà passé dans le passé avec le dossier CLIC, là?
Ça CLIC.
J'allais dire le dossier santé, ça. Écoute, on finit par les mélanger, ceux-là.
Ouais. Là, en même temps, faut pas capoter non plus. C'est pas comme on parle de ça aux gens, c'est pas fait. L'article du journal dit la SAAC aurait repris les discussions avec un de ses fournisseurs pour évaluer ce scénario-là. Et là, si on en parle, c'est parce que c'est le commissaire à la vie privée là, qui a comme un peu mis un haut là en disant attention, là, si vous allez jouer là-dedans, il va falloir regarder ça sous toutes ses coutures.
Ben, il y a des questions de sécurité informatique, il y a des questions de protection de vie privée. Moi, je pense que, tu sais, avant de partir dans les tours, il faut se calmer. Là, en plus de ça, il y a quelque chose de particulièrement ironique à nos réactions, alors qu'on est dans un contexte où on a des photos sur Instagram, on a des photos sur Facebook, notre vie privée est étalée un peu partout à droite puis à gauche, puis là, le gouvernement voudrait faire quelque chose où il utilise notre photo, puis là, c'est juste
Les données biométriques de reconnaissance, ça a une valeur, là.
Absolument.
Si t'apprenais que ça a coulé, que ça a été vendu, tu sais, moi, je capote un peu. Tu sais, ils disent qu'à un moment donné, tu vas être reconnu dans un centre d'achat avec ça, là. Puis là, ils vont savoir, ben là, Marie vient de rentrer dans le centre d'achat.
Qu'est-ce que j'ai acheté?
Non, mais le panneau publicitaire va changer.
Oui.
Parce qu'ils savent que toi, au centre d'achat, t'achètes toujours du linge ou toujours de la pharmacie ou toujours des produits de beauté.
Mais ça se fait déjà dans des pays. C'est ça que je te disais. Tu sais, que tu te promènes dans la rue, puis là, poum, tout d'un coup, t'es reconnu.
Les publicités s'adaptent à toi.
Absolument.
Parce que ta face a été reconnue.
Ben, c'est un peu ce qui se passe sur nos fils de médias sociaux aussi.
Complètement.
T'sais. Donc, c'est comme on n'est pas à des années-lumière de ça, mais quand tu vois toutes les informations, quand tu sais, je veux dire, des banques là, qui devraient être le numéro un en termes de sécurité, quand on voit toutes les fuites qu'il y a eu dans les dernières années, c'est sûr que c'est préoccupant. Quand tu vois le gouvernement, comment ils ont géré plusieurs dossiers ou pas gérés ou mal gérés, utilise l'adverbe qui te plaît, c'est sûr que c'est préoccupant, mais je pense que de façon certaine, il faut qu'ils l'expliquent, il faut qu'ils nous disent où ils s'en vont, s'ils s'en vont quelque part, parce que comme tu dis, c'est peut-être qu'ils s'en vont pas là non plus. Là.
Moi, on a parlé de ça beaucoup aujourd'hui, je dirais qu'il y a comme deux grandes questions. Il y a le pourquoi, puis il y a le
qu'est-ce
comment.
Qu'est-ce qu'on essaie de régler?
Exactement. Le pourquoi, c'est qu'est-ce qu'on essaie de régler? Là. Démontrez-nous l'ampleur du problème, parce que tu sais, si tu te lances dans quelque chose qui va avoir des coûts financiers...
Pas des petits coûts, d'après moi. Là,
et un risque de sécurité. Mais pour que moi, j'accepte de payer la facture et de prendre le risque de sécurité, il faut que tu me convainques qu'on règle un gros problème. C'est sûr que si on a un immense problème à régler, je vais peut-être être plus parlable pour dire OK, on va regarder ce qu'il faut faire. Après ça, le comment, là, c'est quoi le niveau de sécurité, c'est quoi les barrières, c'est qui le gardien de la voûte là, qui va s'assurer qu'on protège nos renseignements. Moi, c'est vraiment le pourquoi puis le comment.
Ah oui, mais c'est ça. C'est pour ça que je disais, en lisant la nouvelle, mon premier réflexe, c'est de me dire on essaie de régler quoi? Parce que, un, ça va avoir des coûts financiers importants. Deux, c'est du temps, là. Ça veut dire que, go, retourne prendre tes photos, puis là, est-ce que c'est tous les 10 ans ou c'est aux 5 ans ou comment t'ajustes ça? Tu changes tes lunettes? Tu sais, il doit avoir...
Pas que tu changes de face.
Non, pas que tu changes de... Il doit avoir plein de paramètres. Tu perds du poids, tu sais, entre, je sais pas moi, entre 16 ans puis 21 ans, 22 ans, t'as plus la même face. Donc là, ça a l'air banal, mais c'est tout des paramètres qui doivent être encadrés. Qui doivent être discutés, comment tu protèges la vie privée, la sécurité, les fuites, qui a accès à moyen, court, moyen, long terme, est-ce que tu donnes accès aux policiers, justement, pour des enjeux de sécurité nationaux, dans certains cas. Écoute, moi, j'aurais beaucoup de questions si j'étais assis autour de cette commission parlementaire-là, mais je pense que, en tout cas, si le gouvernement a vraiment l'intention d'aller de l'avant avec ça, il ne peut pas se priver d'avoir une discussion pour qu'on soit informé. Puis justement, de toute façon, on sait, hein, dans ce genre de changement-là, la clé, c'est la communication, c'est la pédagogie.
Mais il y a une job pour rassurer le public. Comme j'ai regardé les commentaires toute la journée, là. On va dire, les gens commencent à être à fleur de peau pour ce qui est de la protection de leur enseignement, oui. de leur vie oui. privée. Oui. Là, t'sais, les gens ont tout ça. Puis, quand je dis à fleur de peau, pas juste à cause du gouvernement, là, t'sais, la fuite ici, la fuite chez Desjardins, la fuite, les gens...
Mario, on est dans un contexte où, en tout cas, je sais pas toi, je pense pas que je dois être bien différent du monde. Je reçois un, deux, trois textos tous les jours qui me disent que j'ai une contravention de la Ville de Montréal qui est pas payée. Je sais pas si t'as vu aujourd'hui, la Ville de Montréal, ils ont même émis un avis en disant attention, c'est un faux texto qui circule.
La semaine passée, c'était la SAAC. Oui. La semaine passée, la SAAC se plaignait de faux textos. Je pense que ça disait que t'avais été facturé, entre autres, ton immatriculation, ton permis de conduire avait été facturé, entre
autres. On va te donner de l'argent, ben si oui. t'as pis là. Là, ça va être les impôts bientôt.
Ça te fera un remboursement, oui. mais cliquez ici. Oui. Mais évidemment, si tu cliques là, tu viens de te faire hameçonner.
Oui.
Marie, merci.
À demain. Mario.
Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme. Les yeux fermés.
On apprend donc ce matin dans le journal que la SAAC, la Société d'assurance automobile, a repris... Le projet avait déjà existé, avait été comme mis sur la glace, mais là, on a repris des discussions avec un fournisseur, donc on panique pas, là, c'est pas fait. Mais en vue d'instaurer cette vérification d'identité par le visage, les données biométriques, donc votre photo, votre face, plus que la photo, c'est vraiment tous les traits de votre visage... C'est quelque chose de reconnu quand même qui fonctionne. Les gens plus habitués à la technologie, c'est beaucoup, là, tu regardes ton cell de face puis il s'allume. Là, t'sais, t'as pas besoin de faire ton code pour le débarrer. Il se débarre parce qu'il reconnaît que c'est bien Mario qui me regarde. Mais bon, là, c'est une autre affaire de dire, OK, la SAAC fait ça pour tout le monde. Donc, si la SAAC vous reconnaît, ça veut dire qu'elle a gardé quelque part dans une banque de face, de données biométriques, votre visage. Michel Cetlacoué, député libéral de Mont-Royal-Outremont, porte-parole de l'opposition officielle en matière de cybersécurité, est avec nous. Bonjour.
Bonjour, M. Dumont.
Ça vous inquiète?
Ça me préoccupe. Oui, ça me préoccupe. C'est pas juste moi. Les experts ont émis des réserves. La présidente de la CAI, Maître Poitras, avait émis des réserves il y a longtemps, des préoccupations. Je dis pas qu'il faut pas s'en aller dans cette direction-là. Pas du tout. Nous, on ne dit pas qu'il faut pas moderniser. Il faut moderniser, mais ce qu'il faut faire, c'est en discuter, avoir un débat public et bien encadrer l'utilisation de cette technologie.
Ouais. Il y a comme deux questions, là. Il y a le pourquoi, puis il y a le comment. Là. Puis on va arriver dans notre discussion au comment tantôt, là, tout ce qu'il faut faire pour être prudent, mais dans le pourquoi, entre autres, à la SAAC, on semble nous dire, ouais, il y a des doublons, il y a peut-être des gens qui ont deux permis de conduire ou qui en ont un qui est suspendu, ils s'en font faire un autre sur un autre nom, ou des gens qui seraient pas citoyens, on sait pas, qui se font faire un faux permis de conduire pour se faire une pièce d'identité, mais est-ce que c'est... Tu sais, s'il y en a sept au Québec, je vais vous dire, mais on vire pas le Québec à l'envers, puis on n'investit pas des centaines de millions dans une patente de même. Est-ce qu'on est sûr qu'on s'attaque à un véritable problème, à un fléau?
Mais c'est une excellente question. Puis c'est une question d'ailleurs qu'on pourrait poser en commission parlementaire. On pourrait la poser, la question, au ministre concerné. Mais moi, pour avoir échangé avec lui, le ministre Kerr en cybersécurité et numérique, je lui ai posé la question en mars de 2023. Au sujet de cette idée-là d'utiliser cette technologie-là. Et il m'a dit quel était l'objectif, mais ensuite, il m'a tout de suite dit que ça allait être mis sur la glace. Ou en fait, non, c'est la ministre des Transports qui l'avait mis sur la glace un peu plus tard, mais peu importe, là, vous avez posé une bonne question. L'idée de faire un ménage de photos, OK, soit, c'est intéressant, mais là, il ne faut pas se le cacher. Puis le ministre me l'avait dit l'année passée, ultimement, ce serait utilisé dans son projet d'identité numérique. Donc
ça pourrait servir à d'autres ministères ou à d'autres fins d'identification.
Oui, oui, parce que c'est ce qu'on veut. On veut moderniser, on veut avoir des services plus conviviaux pour la population. On veut que la population puisse facilement avoir accès aux services gouvernementaux par des outils technologiques faciles, sécures. Donc oui, il faut connaître les objectifs du gouvernement derrière l'utilisation de cette technologie-là, certainement. Et il faut l'encadrer.
Ouais. Ouais, ça c'est le comment, là, l'encadrer, parce que qui dit conserver des données d'identification dit monter un fichier, là. Comment on le sécurise, où est-ce qu'on entrepose ça, qui y a accès. Plus les informations sont précieuses, plus elles permettent de faire des transactions ou des vérifications, plus on est, je pense, le public. En plus, le public est devenu assez nerveux avec tout ce qui est protection de sa vie privée, là. Mais plus il faut que ce soit sécurisé, béton.
Absolument. Et vous l'avez dit, là, la population est craintive. Puis là, on les comprend. Là, déjà, sur l'enjeu, sur le dossier, ça clique. Il y a eu un fiasco, ça n'a pas fonctionné du tout. Et là, on nous parle d'utiliser nos données biométriques. Là, pensez-y, là, c'est unique à chaque personne. Nos yeux, nos rides, tout ce qui est reconnaissance faciale. Ça peut être un outil extraordinaire, mais si ça se ramasse entre les mains d'individus malveillants, ben là, on a un sérieux problème. Donc, ce qu'on veut, donc, c'est rassurer les Québécois que, un, c'est la raison pour laquelle on veut l'utiliser, ce vers quoi on s'en va. Il faut vraiment qu'il y ait une transparence. Il faut que les Québécois soient rassurés sur le processus. Et moi, déjà, le ministre ne m'a pas rassurée aujourd'hui. J'ai lu sa réaction dans l'article de journal et je lui ai posé la question un petit peu plus tôt au Salon Bleu. Moi, je veux savoir quel va être son rôle. Et déjà, il a dit, ben, on va laisser l'autonomie à l'organisme en question, la SAC, on comprend ça. Et je vais agir au moment que je vais juger opportun. Déjà, il y a un flou, ça fonctionne pas, là. Là, faut savoir tout de suite qui va faire quoi, à quel moment. Et je vous dirais qu'en commission parlementaire, c'est notre demande aujourd'hui. Nous, on veut une commission parlementaire. Il faut entendre en premier lieu les experts, ceux qui sont experts dans le domaine, qui ont levé les drapeaux, leur parler, savoir comment ce processus-là devrait se déployer, puis s'assurer que les ministres concernés entendent ces informations-là et les mettent en application.
On va surveiller l'évolution de tout ça. Michel Sattelacouin, merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Au revoir.
Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario.
Bonjour.
C'est simple, c'est la grosse nouvelle du jour. Là, avant même que les gens ouvrent leurs journaux ce matin, ça faisait déjà le tour du web au grand complet. Les images de ce navire, le Dali, gros porte-conteneur à Baltimore, sur la côte est des États-Unis, qui entre là, de plein fouet, là, je dis de plein fouet, pas une
si
grande
vite,
vitesse.
Pas très vite, mais bon, c'est ça.
Avec beaucoup d'énergie et beaucoup de masse, qui entre dans les piliers du pont Francis Scott Key, un pont assez massif, merci. On parle de 2,6 km de longueur qui s'effondre là, comme un château de cartes au contact du navire. Et depuis ce temps-là, on est à la recherche de gens qui se seraient trouvés sur le pont à ce moment-là. Et les détails ont continué à filtrer tout au long de la journée. Mario, une situation qui a beaucoup changé. On parlait là à l'origine de 8 personnes qui se seraient trouvées sur le pont à ce moment-là. 8 personnes seulement sur un aussi long pont. On a appris en cours de journée que le navire en question a commencé à éprouver des pannes électriques. Là. Donc, perdu sa propulsion, perdu son gouvernail et s'est mis à lancer des appels de détresse aux autorités sur place.
Incluant le risque de frapper les structures du pont. Là.
Voilà. Et en appelant comme ça à évacuer le pont, ben, les autorités ont fermé temporairement la circulation, ce qui a permis ben, de limiter les dégâts.
À la minute près, là. Hein? D'ailleurs, le gouverneur de l'État disait on va refaire là, l'enquête minute par minute. Mais j'ai l'impression qu'il dit on a sauvé des vies probablement à la minute près d'empêcher les gens de venir sur le pont.
Oui, il y a déjà eu des témoignages de gens qui sont passés là à la dernière minute, qui ont vu les images par la suite puis qui en revenaient pas justement. Mmh. Mais malheureusement, restaient 8 personnes qui sont des employés d'entretien de la chaussée, Mario, en bon terme, là, des gens qui étaient en train de réparer des nids de poules, ni plus ni moins, qui sont malheureusement là, tombés avec le pont. On voit sur les images là d'ailleurs les lumières là, des camions d'entretien sur le tablier du pont qui s'effondrent littéralement et qui se sont ramassés à l'eau. On a réussi à en repêcher 2, dont un grièvement blessé.
Mais
et
l'autre, il y en a un qui, quand ils ont fait la conférence de presse vers 11h, il y en a un qui était déjà plus à l'hôpital.
Ouais, un miraculé, Mario?
Je veux dire, je me demandais quasiment si c'était une erreur, mais ça semble être bien vrai qu'il y a une personne qui a été repêchée, pas blessée, là.
Ouais, ce qui serait absolument incroyable. Malheureusement, c'est pas tous les autres qui ont eu cette chance-là, Mario.
Mais dans les il en manque six, eux.
Il en manquerait 5 maintenant, Mario, parce que dans les dernières minutes, il y a un corps qui aurait été repêché par un bateau à Baltimore. Donc, on parle bien évidemment de quelqu'un de décédé. Donc, si on fait la La corrélation que c'est bien un des travailleurs du pont, ben, il en restera cinq à trouver.
Disparus. Sauf que s'il y en a qui sont coincés dans des véhicules, avec les sonars, ils disent être capables de repérer des véhicules dans le fond de l'eau. Il y a des véhicules dans le fond. Alors, c'est pas impossible qu'il y ait des gens coincés dedans. Là.
Absolument. C'est pas impossible qu'il y ait des gens coincés dedans, mais malheureusement, Mario, d'heure en heure, mais les chances d'en retrouver vivants s'amenuisent alors que les conditions sont assez sévères. Merci, là, il fait froid cette nuit. Il faisait près du point de congélation là, à Baltimore. Il faisait 9 degrés ce matin. On parle d'une eau qui est excessivement froide. Donc, des gens qui ont beaucoup moins de chances de survie là, s'ils sont immergés en longueur. Et là, il y a eu toutes sortes de théories, évidemment. Ce matin, on parlait là, au début là, peut-être d'un qui était pas un accident, un acte volontaire. Ouais. On a écarté tout ça. Là. C'est vraiment le problème technique, comme on a parlé tout à l'heure. D'ailleurs, on a appris que l'équipage, eux, qui ont eu aucun blessé, aucun mort, heureusement, mais ont déployé même les ancres du navire. Là,
pour essayer de l'arrêter avant. Sauf que quand tu revois les images, le moment où il y a le premier problème de panne, là, que toutes les lumières, c'est parce que c'est la nuit, donc le bateau et les lumières sont allumées, puis quand il y a la panne, le bateau est tout noir, il n'y a plus de lumière, et il est proche, la première panne, il est proche, pas à peu près du pont, je sais pas, j'ai la misère à l'évaluer en mètres, mais tu comprends qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps de réaction. Puis là, à partir de là, il dérive tout simplement. Là, soudainement, il suit le courant. Là, il est apporté, il est amené par le courant. Il contrôle plus sa trajectoire.
Ouais, puis c'est pas, on se comprend, c'est pas le plus gros de tous les navires qui transigent par le port de Baltimore, mais c'est quand même un behemoth, là, Mario. On parle 300 mètres de long, là, 42 mètres de large.
Il parle de 4900 conteneurs à l'intérieur. On imagine le poids de ça.
Ouais, un navire quand même récent, cela étant dit. Là, c'est pas un vieux rafio, là, donc il va falloir enquêter, bien évidemment, sur pourquoi il y a eu ce problème électrique-là. Mais l'autre enquête, Mario, encore plus importante, c'est pour comprendre comment un bateau comme ça a pu faire effondrer un pont, surtout un aussi gros pont. Parce qu'aujourd'hui, c'était la crainte d'un peu tous les Québécois et les Québécoises, hein, de voir.
Oui, parce qu'il y a quand un bateau rentre par le golfe du Saint-Laurent puis s'en va dans la voie maritime du Saint-Laurent, en Ontario, il passe 4 ponts québécois.
Oui, puis là, je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de gens qui prennent le pont Pierre-Laporte à Québec. Il y a des gens qui prennent le pont Jacques-Cartier, qui vont prendre des ponts ici.
Le pont La Violette à Trois-Rivières. Peut-être le plus à risque dans le fleuve.
Ben oui, mais tous les bateaux qui passent par là, je suis pas sûr qu'il y a bien des gens qui roulent sur le pont et qui se disent « Hey, il faudrait pas qu'un bateau vienne percuter tout ça. »
Mais aujourd'hui, on se la posait la question.
Aujourd'hui, on se la posait la question. Heureusement, il n'y a pas de crainte à y avoir. Là. Partout sur les ponts ici au Québec, on a des piliers qui sont protégés par toutes sortes de mesures d'atténuation. Là, justement, le pont Pierre-Laporte, on peut même pas se rendre. Là. C'est sont sur la terre, là, physiquement, les piliers du pont. Là. Mais dans le cas, par exemple, de la Violette, on a de l'enrochement. C'est comme des gros morceaux
mais
de roche.
Mais qu'il n'y avait pas au début. Là. On s'est rendu compte, semble-t-il, dans les années 80 de ce danger-là. Et il y a eu quelqu'un de la Mauricie m'a écrit pour me dire, parce qu'on avait parlé de ça en onde, que durant les années, je sais pas, 70-80, il y a eu un événement qui avait menacé, rien de comparable à ce qu'il y a eu aujourd'hui, il n'y a pas un bateau qui a frappé de plein fouet, mais un bateau qui avait dérivé proche du pont de la Violette, ça avait créé une nervosité, je me demande s'il n'est même pas allé s'accoter quelque part, et donc... Après ça, il y a eu une étude, on a vu le danger, et donc c'est enroché. Donc on a mis, et c'est pas très profond, là, le fleuve est pas très profond, donc c'est vraiment une montagne de roches autour du pilier, qui fait que si un bateau partait à dérive, il reste à côté là-dessus, pourrait pas se rendre à aller frapper le pilier.
Absolument, même chose par exemple, ici, pont Jacques-Cartier à Montréal, c'est du béton, là. On pouvait voir là, près des piliers, des énormes là, blocs de béton qui sont situés à la base de tout ça, là, est fait justement là, par les ingénieurs pour éviter ce genre de scénario-là.
Mais là, on le voit, les gens qui nous regardent à la télé, vous le voyez, ces images présentement, c'est comme c'est des poteaux assez légers. Là. Les ingénieurs à qui je parlais aujourd'hui disaient, tu vois que c'est fait pour supporter de la pression venant du haut, là, un poids énorme du pont, mais de côté, tu sais, frappé de côté, c'est pas énormément solide, là, ces structures-là. Ça pouvait pas résister là, au poids immense d'un bateau comme ça, là, avec son chargement, avec sa cargaison.
Ouais, exactement. Donc, toute une tragédie, là, ça va être suivi de près. On va essayer de comprendre là, lors de l'enquête. Puis une fois que les recherches là, pour les corps vont être terminées, on va comprendre peut-être plus en détail comment ça a pu s'effondrer. Mais vraiment, les images qui ont fait le tour du monde...
J'imaginais l'équipage, parce que quand tu regardes les images, tu comprends que l'équipage n'a pas été blessé parce que pour le bateau, ça brasse pas tant que ça. Tu sais, ça cogne, ça va comme à côté, ça cogne un peu, puis il n'y a pas l'air d'avoir une violence de choc dans le. Ça a dû donner un coup là, dans le bateau, mais pas pour avoir des morts. Mais eux, là, ils ont-tu dû capoter juste avant, quand ils se sont rendus compte qu'ils allaient frapper la structure du pont. Puis écoute, je sais pas, t'es dans un bateau, ils ont dit il y avait 27, quelque chose comme ça, 24 membres d'équipage. tu vois les structures du pont tomber autour de toi, un pont majeur là, quand même de la ville de Baltimore, tu dois capoter pas un peu.
Ouais, tout un axe économique. Là. D'ailleurs, j'ai consulté là, des sources d'une chaîne d'approvisionnement aujourd'hui qui disaient que, OK, là, ça va pas venir là, tout massacrer l'approvisionnement, mais quand même, on parle de plusieurs
on
milliers...
On parle d'un impact économique, là.
Ouais, plusieurs milliers de camions qui quittent le port de Seattle tous les jours. On dit que c'est des produits congelés, particulièrement. De Baltimore. Des produits congelés, semble-t-il. Tout ce qui est surgelé, beaucoup, beaucoup de tout ça qui circule dans ce port-là. Et malheureusement, Mario, chaque fois qu'on a un événement majeur de ce genre-là, ben, il y a des théoriciens du complot, des gens de la complosphère en ligne, ben, qui se mettent à repartager A, de la désinformation, et B, complètement...
Toutes sortes d'hypothèses qui expliqueraient l'inexplicable.
Voilà. Et là, ben, on a les suspects habituels aussi qui étaient à l'œuvre tôt ce matin. Le complotiste bien notoire, le Alex Jones, qui était comme de mèche ce matin avec Andrew Tate, hein, arrêté pour trafic sexuel, trafic humain, agression sexuelle et autres.
Et quelle était leur thèse ce matin? Pourquoi tout ça arrivait?
Cyberattaque, Mario. La Troisième Guerre mondiale était imminente ce matin. C'était une cyberattaque, c'est évident. Toutes les infrastructures digitales des États-Unis vont bientôt subir le même sort. On entre dans une période de guerre.
Ça, c'est une cyberattaque, là.
Ouais. Dans leur tête, c'était une cyberattaque. C'est venu aujourd'hui, bon. Mario. C'était un peu ridicule.
C'est débattable là, que ce soit une cyberattaque.
Ouais. Disons que c'est très, très, très débattable, Mario. Puis après ça, mais il y avait d'autres trucs plus rigolos. Là. Quelqu'un qui se mettait à divaguer sur le fait que le navire s'appelle le Dali et qu'il y a une peinture aussi de Salvador Dali, hein, duquel est tiré le nom là, de ce bateau-là. C'est une peinture qui s'appelle Broken Bridge and the Dream. Il y a comme un pont brisé.
Donc, Dali, à l'époque, savait déjà qu'un bateau, mais je pense pas que le bateau est nommé d'après le peintre. J'ai l'impression que c'est plus un nom qui vient d'Asie du Sud-Est. Le bateau est bas pavillon de Singapour.
Mais est-ce une coïncidence, Mario? Regarde, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui vont publier toutes sortes de trucs, mais surtout, c'est peut-être là que c'est plus grave un peu, Mario, des gens en ligne qui disent un peu n'importe quoi, OK, on peut prendre ça. Mais après ça, j'ai fait le tour quand même de nos beaux réseaux, de nos voisins du Sud, là, à commencer par Fox News. Ce matin, l'animatrice Maria Bartiromo, elle, a reçu quelqu'un en disant « Ouais, là, on le sait, là, y a un pont, c'est effondré, c'est terrible. Mais tout ça, évidemment, un lien avec la frontière, puis notre frontière poreuse au sud des États-Unis. » Il m'a parlé d'immigration, comme fait un lien douteux avec l'effondrement du pont. Puis j'ai vu ça d'un peu partout, là, le réseau
de news. C'était de la faute de Biden, là.
Ben oui, c'est de la faute de Biden, évidemment. Il y a des gens qui ont blâmé le secrétaire des Transports, le Pete Buttigieg, aussi sur la même chose. Puis sur le réseau Newsmax, on se comprend qu'il est encore plus à droite que Fox News, mais on disait que c'est depuis la pandémie et le COVID lockdown, tout ce qu'on a mis comme mesure de couvre-feu aux États-Unis, ben c'est ça qui a poussé les gens.
Depuis ce temps-là, il y a des ponts qui s'effondrent.
Ben c'est ça qui a poussé les employés de bateau vers la drogue, Mario. Ah. Et c'est ça qui aurait causé tout ça.
Je faisais une recherche là, dans le dernier 50 ans. C'est quand même rarissime. Là. 4 événements. Un en Tasmanie, le pont Tasman en 1975. Celui-là qui est le plus spectaculaire, si les gens veulent aller voir ça sur Internet. Parce que ce pont-là, il y a deux personnes qui ont freiné en auto, carrément dans le vide. Là. Le pont couple d'une section à l'autre. Non, mais il y a deux autos qui ont les roues d'en avant, à côté, comme dans le vide. Mais l'auto...
Ils sont tombés.
Non, ils sont pas tombés. Le ventre de l'auto, comme il avait freiné. Le roue d'en avant a déboulé. Puis quand le ventre, le dessous de l'auto...
A touché
le sol, ça s'est arrêté là. Puis ils ont pu les sortir de là. Ça, c'est passé proche, là. Il était dans le vide, ça. Et il y en a eu un, à Tampa Bay, en 1980.
Ah ouais?
Ouais, Tampa Bay, il y a un pont entre Tampa Bay et Saint-Pétersbourg, là. Il y a un pont qui s'était effondré. Encore là, je parle pas des effondrements de ponts, il y en a eu d'autres. Je parle frappé par un navire. Je parle du cas précis où c'est un navire qui fait tomber le pont. Et le dernier que j'ai trouvé, c'est à Oklahoma, mais c'est beaucoup plus petit. Là. C'est un petit pont là, qui enjambe un fleuve, là, un pont d'autoroute sur la I-40. Et dans ce cas-là, c'était un capitaine d'un bateau, d'une barge, d'un bateau. Tout est beaucoup plus petit dans ce cas-là, mais qui avait fait crise cardiaque, AVC, chose comme ça. Ouais. Donc, comme on dit, il n'y avait plus de capitaine à bord, puis personne qui pilotait la barge et était allé frapper l'une des structures du pont. Mais disons, dans le dernier demi-siècle, là, ce serait le quatrième, mais probablement le plus gros et le plus spectaculaire, là, celui qu'on a vu ce matin.
Tout savoir en 24 minutes.
Si on vient au Québec maintenant, il y a un débat qui a été réclamé par les partis d'opposition à l'Assemblée nationale sur un projet qui avait été mis sur la glace, mais qui est relancé en ce moment, celui de reconnaissance faciale au Québec. Là, on veut, du côté du ministère d'Éric Kerr, donc de la cybersécurité du numérique, créer un peu ce projet de reconnaissance faciale, là, d'avoir vraiment une banque de visages, d'images qui pourraient, ben, après ça, être réutilisées éventuellement pour toutes sortes d'autres projets, permettre, ben, oui, de s'identifier avec son profil là, sur le gouvernement du Québec, mais aussi éventuellement, mais d'avoir peut-être là, le fameux passeport numérique entier qu'on vise à atteindre dans un futur plus ou moins rapproché, Mario. Mais à chaque fois qu'on parle de tout ça, le problème, c'est qu'on parle d'enjeux de cybersécurité, comme le dit le nom du ministère, justement. Puis il y a des inquiétudes là, qui fusent de partout, surtout au vu de comment on a géré certains dossiers de cybersécurité dans les dernières années, Mario.
Puis comment la SAAC a géré sa transition numérique l'année passée, sa modernisation qui a été chaotique. Mais je pense aussi, sincèrement, les gens sont rendus méfiants. Tu sais, quand tu leur dis, OK, là, vos données biométriques, donc la structure de votre visage là, va être conservée. Bon, pour fin d'identification, vous vous présentez à la SAAC, on sait bien que c'est vous. Bon, OK. Mais là, c'est parce que si tu me reconnais, ça veut dire que tu as gardé les données dans un fichier. Fichier qui est conservé où? Comment? Qui a accès?
Avec quelle sécurité?
Avec quelle sécurité? Qui peut le consulter? Qui peut le partager? Comment ça peut être partagé? Est-ce que tu fais affaire avec des toiles à sac en informatique, tu fais affaire beaucoup avec des sous-traitants? Est-ce que les sous-traitants ont accès à ça? Est-ce qu'ils partent avec les fichiers?
Il y a tellement de questions, de questions. Puis à chaque fois, là, ce matin, là, c'est nos collègues là, avec Alexandre Dubé qui recevait Steve Waterhouse, expert en cybersécurité, qui se sont posés exactement les mêmes questions. Parce que, honnêtement, on est toujours craintif. Puis on comprend qu'il faut avancer avec l'air du temps, là, qu'il va falloir moderniser éventuellement tout ça.
C'est quand même un bon moyen d'identification, là, la reconnaissance faciale. On l'utilise tous sur nos selles. Selle nous reconnaît, il débarre en voyant notre face.
On se comprend que Samsung, Apple puis tout ça font de la reconnaissance faciale déjà. Là, puis c'est peut-être pas non plus...
Mais eux, ils jurent. Apple, Samsung et compagnie jurent que ça sort pas de ton sel. Que eux n'accumulent pas ces données-là.
Mm-hmm.
Ils le jurent.
Mm-hmm. Je comprends les inquiétudes du monde.
Vrai, mais oui, je sais. On vient maniaque. Là.
On vient maniaque. Je vais me mettre à parler que je veux m'acheter un nouvel arrosoir dans ma cuisine. Puis le lendemain matin, j'ai des annonces d'arrosoir chez nous.
Tu regardes un site de n'importe quoi, puis t'as des annonces d'arrosoir.
Non, on se comprend. C'est vraiment, sincèrement, un peu effrayant pour tout ça. Puis je retourne dans ma talle, Mario. Pour tout ce qui est de théorie du complot, des gens qui sont obsédés là, depuis longtemps.
Ils craignent d'être.
C'est
fiché.
Une hantise, Mario. C'est une hantise là, noire.
D'être fiché par l'État.
D'être fiché par l'État, ni plus ni moins, que ce soit un outil de contrôle. On comprend, c'est un peu dystopique, mais quand même, il y a des inquiétudes qui sont légitimes. C'est pourquoi on a demandé là, donc un débat à l'Assemblée nationale.
Avec raison.
Actualité.
La ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Derry, a dû réagir aujourd'hui à un reportage là, qui a été tout d'abord publié par Radio-Canada plutôt aujourd'hui, qui faisait état d'initiation dégradante, cette fois-ci à l'Université de Sherbrooke, et qui remonte à l'automne dernier. Et là, ben, dit songer à interdire des pratiques comme celle-là, même si elle n'est pas rendue à cette étape-là directement. Parce qu'on se comprend, les initiations dans toutes sortes de milieux, on en a parlé beaucoup avec les événements excessivement dégradant, violent, sexuel. Dans les clubs sportifs. Et là, ça revient encore une fois d'un cégep et université. Parce que dans les dernières années, Mario, depuis le mouvement MeToo, on s'est doté de codes de conduite autour de tout ça, auprès des associations d'étudiants, auprès des universités elles-mêmes.
Moi, ma fille l'a vécu, là, c'était tout organisé. Il y avait carrément des jeunes de l'association étudiante qui étaient des espèces de vigies qui s'assuraient que à tout moment, on expliquait aux jeunes que si ça te convient plus, si t'es plus à l'aise, si t'avertis, tout, tu sais, c'était structuré, puis il y avait pas. Mais là, c'est parce que là, c'est le département de biologie de l'Université de Sherbrooke.
Ouais.
On parle de faire boire de l'urine animale, toutes sortes affaires vraiment dégueulasses, c'est ça.
Tous les classiques ignobles, là, beaucoup de nudité, manger des trucs dégueulasses, manger du vomi, de l'urine, mettre des pieds dans des toilettes chimiques. Non, vraiment des choses dégoûtantes. Mais surtout, Mario, c'est l'espèce de fait qu'on pousse les gens, là, qu'on met une pression
gré, là,
particulièrement forte pour que ça arrive. Puis j'étais jusqu'à il y a pas longtemps à l'université, là, il y a quelques années quand même de ça. Mais je te dirais, moi, on est l'année où j'ai été initié, Mario, c'est l'année, là, quelques mois avant le MeToo. je peux te dire que ça a changé là, du tout au tout, de l'année où j'ai été initié à l'année où moi-même là, je procédais, j'organisais tout ça. Ça a changé du tout au tout. Là. Puis dans les dernières années, c'est devenu beaucoup plus réglementé.
Donc, une fois ça dit, est-ce qu'on va interdire toutes les initiations? C'est quand même...
Je pense pas que c'est la solution dans tous les cas. Là. Puis c'est ce que semblait dire Mme Derry là, en disant...
Ben moi, je compte ça. L'interdiction généralisée, tu peux pas présumer...
Ça va se faire en secret, sinon...
Oui, puis là, pas juste ça, Monet, tu responsabilises les gens. Puis là, cette année, quand même, il y en a eu un dans un département d'une université. Est-ce qu'on va punir tous les élèves, tous les étudiants de partout pour ça?
Non, mais en tout cas, ce serait peut-être pas la meilleure des idées, mais reste à voir pour le reste, Mario, parce que là, on a un cas sur lequel il semble qu'on va sévir.
Est-ce qu'on a... J'ai pas vu, est-ce qu'on a une réaction de l'Université de Sherbrooke?
Ouais, c'était complètement inacceptable. Ils vont enquêter là-dessus aussi. Donc, ce sera à voir. Là, évidemment, c'est des événements isolés. Ça vaut quand même la peine de les rapporter lorsque ça arrive.
Tout savoir en 24 minutes.
On a eu toute une opération policière, Mario, ce matin à Montréal. On peut pas dire que les policiers chôment par les temps qui courent.
Ouais, et pas d'un corps policier qui agit si souvent que ça là, ouais. Sur le territoire montréalais.
La GRC qui était sur place.
La GRC seule, pas la GRC avec d'autres corps en unité conjointe. La GRC toute seule.
Oui, tous ceux en fait qui sont allés chercher... En fait, ceux qui étaient conjoints avec eux, Mario, c'est les groupes tactiques d'intervention là, qui étaient appelés, là, l'équivalent.
C'est ceux du Nouveau-Brunswick, ceux de l'Ontario, ceux de partout.
Oui, Québec, Colombie-Britannique, Ontario, Nouveau-Brunswick qui étaient sur place aujourd'hui pour procéder aux perquisitions. Près de 400 policiers qui ont participé à une frappe gigantesque qui venait viser, entre autres, la mafia montréalaise.
Tu sais pourquoi ils voulaient autant de monde? Semble-t-il que c'est pas... Ils voulaient pas... Il y avait beaucoup dans leur affaire, là, l'accumulation de preuves, de preuves documentaires, etc.
Vous voulez pas qu'ils détruisent rien, là.
C'est ça. Donc, la seule façon d'obtenir ça, c'était à la minute près de frapper tout le monde à la même heure. Fait que personne pouvait téléphoner aux autres pour dire, là, la police s'en vient, brûle les documents, ou, tu sais, détruit. Il y avait, en frappant, mais pour ça, pour frapper à la minute près, je pense à 13 endroits différents.
Oui.
Ben là, il faut être du monde.
Et du monde, il y avait, Mario, 13 arrestations qui ont été, là, réalisées dans le cadre de cette frappe-là. On dit que s'il y avait, avant tout ça, au-dessus d'une dizaine d'agents d'infiltration. Là. Tu comprends? C'est des gens qui... C'est de longue haleine là, du travail d'infiltration, donc qui faisaient partie de tout ça. Des informateurs aussi qui ont été mis à contribution, puis c'est particulièrement là, dans le domaine du trafic de stupéfiants, blanchiment d'argent, paris sportifs illégaux aussi, qu'on est venu frapper. Donc, les policiers chôment pas par ces temps-ci, Mario, puis ils désirent vraiment là, se faire voir, particulièrement dans la région de Montréal.
Économie.
Bon, on revient sur une nouvelle catastrophique, Mario. Des gens qui ont commencé à voir, et aux États-Unis, mais maintenant à Ottawa, selon la chaîne anglophone CTV, des scanners à l'entrée des Costco pour scanner sa carte de membre. C'est fini. Rentre au Costco, pas de carte, Mario, pour manger ton hot dog à 1,50. Mais quand t'as pas une carte, c'est terminé.
Corrige-moi, je pense que le restaurant était ouvert au public avant.
Voilà. Mais là, on dit
mais
qu'on a vu...
Je pense que j'ai peur que mon beau-père s'en remette pas.
Je vais pas m'en remettre, Mario. Moi, je veux aller manger mon hot dog pas cher, gigantesque.
T'es pas membre de Costco?
Non.
T'allais manger un hot dog?
Ben, j'ai pas une famille à nourrir, donc je ne suis pas membre de Costco, mais non, effectivement. Ça m'est déjà arrivé d'aller chercher un petit snack comme ça. Mais c'est terminé.
C'était bonbon pas cher, là.
C'est vraiment bonbon pas cher, puis dans cette économie, je vais le dire comme ça. Mais il y en a plus beaucoup des choses qui sont bonnes et pas chères. Mais là, cette fois-ci, ben, c'est vraiment fini selon des publications, entre autres, qui ont été recensées sur les réseaux sociaux. Là, aux États-Unis, maintenant, il y a des affiches là, qui disent aux gens, vous ne pouvez plus venir dans le restaurant, ça prend une carte de membre. Puis en parallèle, c'est comme deux nouvelles Costco aujourd'hui. Mais là, on voit de plus en plus ces scanners qui sont installés dans les magasins américains. Il fait des mois que ça s'implantait. Mais là, à Ottawa, on en aurait vu un premier exemplaire. Donc, les gens qui vont devoir venir scanner leur carte. Puis avoir les réactions sur les réseaux sociaux, Mario, je pense que... Pas juste certaines personnes ou quelques personnes qui rentraient sans avoir leur carte ou encore qui rentraient avec la carte de quelqu'un d'autre.
Il y en avait pas mal.
Il y a du monde qui sont fâchés.
Mais tu sais l'expérience, parce que là, on dit les gens vont être insultés, ils vont peut-être perdre du monde. Tu te souviens-tu du moment où Netflix avait annoncé que tu pourrais plus être 2, 3, 4, 5 de la même famille sur le même compte?
Oui.
Puis on avait dit, ils vont perdre du monde avec ça. Et ça a prouvé, quand ils ont présenté leurs résultats financiers le trimestre d'après ou deux trimestres après, la preuve qu'ils ont faite, c'est exactement le contraire. Là. C'est que ils ont pas perdu personne, mais que tous ces gens qui se faisaient mettre dehors de la carte de membre de leur père, de leur mère, de leur sœur, de leur frère, ben qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils ont pris des abonnements.
sont allés chercher leur propre carte de membre. Fait que, ça veut pas dire qu'ils n'ont pas perdu un, mais ceux qui ont perdu versus ceux qui ont gagné, là, la mesure a fait augmenter. Alors, je serais pas surpris que la même affaire elle arrive chez Costco, que tu te dis, ah, ils vont choquer du monde, ils vont... Puis dans la rue, là, t'entends tout le monde qui parle contre Costco, mais que l'effet net, c'est plus de membres. Plus de gens qui payent leur carte.
C'est un peu la même affaire avec Meta, Mario, qui a banni les nouvelles. On a tout dit, ben là, c'est outrageux, tout le monde va se mettre à boycotter ça. Finalement, c'est un incontournable. Ouais. Rien.
Les gens regardent d'autres choses sur Facebook.
Ouais.
Le monde.
On sait que l'ex-président Donald Trump aux États-Unis se cherche tous les moyens possibles en ce moment d'accumuler de l'argent, là, non seulement pour sa campagne électorale, mais aussi pour payer la caution qu'il doit remettre dans le cadre du procès pour fraude financière de son entreprise. Déjà hier, une bonne nouvelle pour lui, la caution a été sensiblement réduite, là, cet argent qu'il devait mettre en gage. Mais là, aujourd'hui, ben, une nouvelle initiative qui va pas lui rapporter directement, mais presque, Mario, un partenariat rémunéré de vente de Bible, Mario. Parce que c'est son livre préféré, comme dit M. Trump. Son livre préféré de tous les temps, la Bible. Et ça, dans une...
C'est une conversion tardive.
Très tardive.
Parce que ceux qui l'ont connu ont toujours dit que c'était pas du tout un homme religieux. Mais quand il s'est en allant en politique, puis je dis pas que c'est pour avoir des votes, là, je dis
mais
pas
non,
ça.
Faudrait pas.
Mais quand il s'est en allant en politique, il s'est mis sur les questions d'avortement, sur tout ce qui plaît aux évangélistes pour républicains, et c'est devenu très religieux.
Oui, c'est un appel de pied qui fonctionne, Mario, dans les églises évangéliques aux États-Unis.
Tout le monde
là,
est Trump.
On est Trump au point d'en faire des sermons, Mario, dans plusieurs établissements.
Puis on se rend pas compte que, ben, gars, il... T'as le droit, là, c'est un choix libre, mais lui, il était pas religieux, il a jamais pratiqué. Là.
Il y a littéralement un procès contre lui parce qu'il a fait de l'adultère, puis il a tenté de cacher tout ça avec des paiements à même l'argent d'une compagnie, ce qui est absolument illégal. Peut-être que c'est pas très chrétien.
Péché.
C'est un péché.
Mais, péché.
Mais qui suis-je, Mario, pour juger ce qui est un péché ou pas? Dans tous les cas, ben, c'est une nouvelle campagne qui s'effectue, qui s'appelle « Rendez sa foi à l'Amérique hein? ». Un peu en rappel de son fameux slogan, là, « Rendez sa grandeur à l'Amérique ». Donc, il reçoit pas d'argent directement de ses bibles vendues 59,99, mais c'est un partenariat payé.
Tu sais que si tu fais « Make America faithful again », t'es proche de mafia.
C'est vrai? C'est vrai, Mario? C'est très vrai. En tout cas, regardez, allez acheter de ces très belles bibles, mesdames et messieurs, si vous le voulez, aux États-Unis. Sachez par contre que vous allez peut-être aider M. Trump par la bande au travers de tout ça.
Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Isabelle Maréchal.
Tous les trois mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit. Là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Mario Dumont.
Comme on dit en québécois, que ça a fessé, là.
La rencontre, Maréchal Dumont.
Je sais pas comment on va y arriver.
Bonjour Isabelle.
Bonjour Mario.
Dans cette crise du logement, on regarde un à un tous les aspects, tous les logements là, qui sont plus disponibles sur le marché. Et Le Devoir ce matin nous parle de locataires, mais qui relouent évidemment, qui louent un logement pour le relouer sur Airbnb évidemment avec fort profit.
Voilà. Et tu sais qu'on a, tu dis crise du logement. J'avais envie de dire enfin on est capable de dire crise du logement parce qu'il n'y a pas si longtemps, le gouvernement hésitait encore à le dire crise du logement. Et il y en a bel et bien une, et je vais te parler de deux sujets qui sont reliés à cette crise du logement. Crise du logement qui avantage, évidemment, ceux qui sont propriétaires d'une maison ou d'un condo, parce que, à moins qu'ils aient des taux variables depuis les deux dernières années, mais c'est sûr que tu as une équité qui a pris de la valeur avec cette crise du logement. Le logement est devenu une valeur marchande très, très payante.
Et tout le monde se bat pour louer.
Et là, tout le monde se bat pour louer. Et ça a créé aussi une surenchère et ça a créé surtout un manque énorme. Et comme notre économie est basée sur l'offre et la demande et que c'est très simple comme principe économique à comprendre, plus il y a de demandes, moins il y a d'offres et plus ce qu'il y a sur le marché devient cher. C'est aussi bête que ça. Là, ce qui est sorti ce matin dans Le Devoir, c'est que, puis tu sais, on dit souvent, ah, les propriétaires en ont profité de cette crise du logement en doublant parfois les loyers qu'ils demandaient à leurs locataires. Et là, c'est un exemple où ça reste marginal, là, c'est à peu près 5 % des locataires, et non pas des locataires, mais bien des locataires qui font ça, c'est-à-dire qu'ils louent. Ils sous-louent leur logement. Donc, ils louent un logement d'un propriétaire et eux, ils le sous-louent
pour le mettre sur des plateformes. Et donc, ça donne toutes sortes de situations documentées par Le Devoir où là, tu te rends compte que finalement, jusque même dans certains cas, c'est des entreprises immobilières de location à court terme qui louent des appartements et puis qu'ils mettent sur les plateformes comme Airbnb, Vrbo et d'autres. Et là, ça donne des gens qui vivent des fois même pas ici. Il y a le cas d'une dame qui est de quelqu'un qui vit à Toronto. Il y en a une autre est en Europe. Et ça,
mais il y en
dis...
a qui vont dire, moi, mettons, je vais... Je passe 6 semaines par année à Montréal, puis quand j'y vais, je veux pas être à l'hôtel, je veux avoir mon appartement, mais pour 6 semaines. Donc, c'est 46 semaines où la personne peut le louer. Tu sais, il y a des gens qui vont dire ça. Puis, dans le fond, ça devient... T'as un appartement... Mais toi, t'es torontois, là. T'as un appartement à Montréal. Quand tu viens à Montréal, t'as ta place. Puis, sur le total de l'année, tu fais une passe de cash.
Ouais, mais
c'est comme
que
un
la
deux
loi...
pour un, là. T'as ton pied à terre à Montréal, puis t'as une source de revenus intéressante.
Mais peut-être que tu peux penser ça, sauf que t'as pas le droit de penser. Tu peux le penser, mais t'as pas le droit de le faire. Bon, tu peux dire que ça serait bien pratique, mais ce n'est pas légal. La loi est claire là-dessus. Tu peux louer un logement, mais tu peux pas sous-louer ton logement sans l'avis du propriétaire. Et certainement pas dans un cas où c'est de la location multiple qui dérange les voisins et sur des plateformes. T'sais. Sinon, le propriétaire va dire... Attends, moi, on me l'interdit comme propriétaire. Imagine un condo. T'es dans une tour à condo, puis on sait qu'au Québec, dans les tours à condo maintenant, il faudrait bien qu'on me dise où c'est encore possible, mais c'est à peu près interdit partout. Moi, je comprends pourquoi c'est interdit dans les tours à condo. Je t'avoue que la dernière loi de la ministre de l'Habitation, je la comprends. En fait, c'est la ministre du Tourisme, plutôt, je rephrase, parce que on a beaucoup serré la vis aux propriétaires, entre autres de chalets. Dans certaines régions, tu n'es plus capable de louer ton chalet sans avoir une licence, sans montrer patte blanche, sans écoute, ça devient... Mais tu peux louer ta résidence principale. Celle-là, je ne l'ai comme pas compris. Parce qu'on veut, on veut pas que les gens louent leur résidence secondaire, mais on leur permet de louer leur résidence principale.
L'idée de louer la résidence principale, ça veut dire que c'est comme, par exemple, quelqu'un qui va travailler un mois à l'étranger ou c'est pour louer
mais
ta
résidence. Mais c'est des situations extrêmement. Ouais, mais c'est pas ça qui arrive. Moi, je peux te parler de gens qui louent leur résidence principale puis qui vont habiter la roulotte à côté. Je trouve qu'on a, ouais, on a mal évalué cet aspect-là. Mais donc, tu dis, la loi est claire là-dessus, tu ne peux pas sous-louer ton logement. Moi, ça m'est arrivé il y a très, très, très longtemps. Moi, l'immobilier, c'est ma passion. Ça fait longtemps que je m'y intéresse. Mon premier logement, je l'ai acheté, j'avais à peine 20 ans, avec mon chum de l'époque. Et quand on a acheté, écoute, on l'a loué à des gens. C'était la dame sous-louait. C'était une personne en plus, malheureusement, qui était sur l'assurance chômage à l'époque. L'aide sociale. Et on a découvert qu'elle était en Floride tout l'hiver. Et qu'elle sous-louait à 3 différentes personnes. Écoute, quand on
elle était sur l'aide sociale en Floride.
Ouais, ça, mais c'est parce qu'à l'époque c'était pas comme aujourd'hui.
Disponible à l'emploi sûrement.
Ouais, tout à fait. Aujourd'hui.
À la recherche d'un emploi.
Je te parle de ça, c'était il y a 30 ans. Mais bon, oui, exactement. Elle était à la recherche d'un emploi ailleurs, en vacances, mais elle sous-louait chacune des pièces. Écoute, c'était fou là. Il y avait même des douches installées dans les garde-robes. Il y avait rien au code. C'était dangereux là. Sincèrement, et ça, tu te dis, ben voyons donc, comment tu peux faire ça? C'est très difficile pour un propriétaire de contrôler ça. Je voulais juste dire, des fois, le propriétaire, c'est le méchant, mais des fois, le locataire aussi peut avoir des pratiques qui sont très douteuses et surtout contraires à la loi.
Et là, un locataire qui le fait, fut-il illégal dans son action, fait de l'argent avec ça. Tu loues un logement, je sais pas, on dit, ah, les logements sont chers. Mettons, tu loues
payant.
Un logement à 1200 ouais. par mois, mais si toi, tu le reloues, mettons, 100 par soir ou 125 par soir,
écoute,
ça devient...
Tu payes ton loyer et tes vacances.
Ben voilà.
Voilà. Mais il faut que ça soit clair, c'est illégal de faire ça. Tu peux pas sous-louer à des gens pour de la location court terme. C'est clair comme ça. Fait que c'est bien qu'on voit aujourd'hui que ce genre de choses se passent et que le gouvernement... Évidemment, il y a le tribunal, le TAL, qui dit, ben oui, c'est pas légal. Donc, mais ça prend combien de temps à mettre un locataire dehors? Écoute, puis une fois que tu l'as mis dehors, essaye de ravoir ton argent, essaye d'avoir... Moi, quand c'est finalement arrivé, il a fallu qu'on fasse décontaminer l'endroit. Là. Il y a eu pour des milliers de dollars là, d'aménagement parce que c'était juste... C'était l'enfer. T'sais. Alors, des fois, ça rééquilibre le discours, tu sais, de montrer que les mauvais sont pas toujours du même côté. Puis, tu sais, quand on parle de crise du logement, ça me fait penser à ce dossier aussi que je suis avec beaucoup d'intérêt. J'ai eu l'occasion d'ailleurs ici de faire des entrevues avec l'association des maisons d'hébergement de deuxième étape, celles qui demandent en ce moment des maisons qui ont plein de projets, entre autres en Abitibi, et que la ministre Durenceau a comme freiné parce qu'elle estimait que 900 000 $ par porte, donc par logement, c'était trop cher. Et dernièrement, entre autres, dans la presse, on détaillait vraiment, elle l'avait fait ici à Cube dans notre entrevue, mais la presse l'a repris ces derniers jours et nous montre qu'il y a effectivement des coûts. Tu sais, on ventile les coûts. Par exemple, ça prend des moustiquaires quasiment en métal avec... Parce qu'il y a une question de sécurité, ça prend des portes avec des codes, il faut décontaminer le terrain. T'es par exemple dans cette maison, je pense à Rouyn-Noranda, c'est la ville qui a donné le terrain pour cette maison d'hébergement qui devra abriter à peu près une douzaine de femmes avec leurs enfants, donc ça peut aller jusqu'à une trentaine de personnes. Mais le terrain que la ville a donné, ça prend 500 000 $ pour le décontaminer. Fait que le terrain est gratuit, mais il faut payer 500 000 de décontamination. Fait que tu sais, t'as plein de coûts comme ça. Il faut tellement pas comparer ça à la construction d'un condo normal ou même à du logement social où t'as pas toutes ces demandes qui sont reliées à la sécurité des personnes et des enfants. Et écoute, chaque année, il y a des tentatives d'intrusion de la part d'hommes violents qui veulent s'en prendre à leur conjoint. Il y a un coût à ça. Mario, alors, il faut arrêter de mettre un frein à ces projets-là parce que pendant qu'on fait ça, c'est la vie des femmes qu'on met en danger.
Je pense quand même que cette histoire-là est à peu près strictement une affaire de maladresse de la ministre Durenceau. Qu'une ministre habile là, aurait tout fait ça, aurait trouvé que ça coûte cher un peu, serait passé en arrière, t'sais, qu'un gant de velours aurait arrangé ça, aurait fait revoir... tu l'aurais jamais su. Ça aurait jamais été dans les journaux, ça aurait jamais été su, ça aurait jamais été mentionné.
Mais donc, est-ce que... Ouais, mais je suis pas
parce que la ministre, elle a juré qu'elle n'a pas bloqué aucun projet, là, qu'ils vont tous se faire. Là.
Mais je pense que c'est le ton, encore une fois. Ouais, c'est le ton, c'est la manière, c'est la forme.
Mais elle va payer un prix politique pour quelque chose qu'elle n'a jamais eu vraiment l'intention de faire.
Oui, mais c'est fou. Ultimement. Qu'est-ce
à suivre.
Ouais, merci.
Isabelle, merci.
Merci beaucoup.
Le problème n'est pas là.
Francis Gosselin.
Ça sonne comme une arnaque.
J'ai-tu une bonne logique, moi, là?
Mario Dumont.
Dis pas que c'est pour faire plus d'argent.
La rencontre. Gosselin. Dumont.
Bonjour Francis.
Salut,
le marché immobilier de Québec qui retrouve un dynamisme.
Ça a l'air. Puis évidemment, au grand bonheur des courtiers et des vendeurs, là, c'est certain. Bon, on parle d'une réduction là, quand même assez importante du nombre de maisons, de propriétés à vendre. Et donc, il y a un article dans le Journal de Montréal avec un courtier que je connais d'ailleurs, Anne Tremblay, que je salue, mais qui indique que là, on est revenu comme avant la pandémie, c'est-à-dire il y a un trop faible inventaire. Et donc là, on repart dans cette espèce de folie. Moi, Mario, que j'ai jamais vécu personnellement, là, je sais pas pour toi, mais de la surenchère, le tarif,
non, moi,
il y a 10 personnes qui attendent pour acheter la propriété. Et puis évidemment...
Mais ma fille l'a vécu.
Et puis,
elle s'est retirée du marché, ben, elle est revenue l'acheter maintenant, mais elle s'était retirée, elle a dit non, c'est débile, là, c'est
incroyable. Puis évidemment, pour moi, comme économiste, Mario, ça me chicote toujours ce système-là qu'on a choisi au Québec, c'est-à-dire que c'est un encan à l'aveugle, et donc c'est au plus offrant, aux conditions.
Mais moi, je trouve que c'est très mal fait.
C'est ça.
Moi, je considère que la personne demande un prix. Mettons 500 000 pour une maison, OK? Oui. Tout ce qui dépasse le 500 000, tous ceux qui accotent le 500 000, là, ça devrait être l'offre maximale que tu fais. Tous ceux qui accotent le 500 000, t'es convoqué à une enchère. Puis après ça, tu dis 505, toi, tu suis tout de suite.
Au plus offrant.
Oui, 510, tout de suite, 515... Jusqu'à temps qu'il en reste juste.
Parce que je vais te dire deux choses. La première, évidemment, les acheteurs sont assez pénalisés par ce système-là. Puis on a même vu là, des courtiers là, qui faisaient des fausses offres. Là, tu te rappelles, là, ça a été jusqu'à l'OACIQ et tout ça.
Parce que là, à un moment donné, là, sur mon exemple de 500, quelqu'un va se dire, je vais être sûr de l'avoir, je vais mettre 560.
Ouais.
Mais personne n'avait l'intention de mettre plus que 510.
Exact.
Fait que le dernier 50, là, c'est un cadeau que tu fais aux vendeurs puis aux courtiers totalement.
Donc, tout le monde perd éventuellement, autant à la hausse qu'à la baisse, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas le juste prix pour la propriété. Donc, c'est ce qui est en train de se survenir à Québec. Donc, il y a, comme je disais, plusieurs courtiers qui témoignent, là, une propriété, Mario, qui se vendait 290 000 $. On ne voit pas ça beaucoup à Montréal. À Québec, il y a certains condos, apparemment, qui se vendent encore dans ces prix-là. Ils avaient reçu 30 visites et 6 offres, ce qui est quand même assez incroyable. incroyable là, comme résultat. Puis donc, évidemment, là, c'est une dynamique qui, je pense, pourra pas durer. Il y a une recrudescence de la construction.
Pourtant,
de
la région. Les taux n'ont pas baissé d'un quart de point encore. C'est que probablement qu'on anticipe ouais. que là, ça s'en vient.
Ben, puis c'est drôle parce que je dis ça moi-même souvent à l'antenne, puis à qui veut bien l'entendre. N'attendez pas que les taux baissent ouais. parce que le moment que les taux
parce
vont baisser.
Parce que le taux 5 ans a baissé, lui.
Le taux a baissé. Puis évidemment, si tu prends aujourd'hui un taux variable en anticipant qu'il va y avoir 3 baisses de taux dans l'année, puis possiblement d'autres baisses de taux en 2025, tu fais le calcul dans ta tête. J'aime mieux acheter la maison à un plus petit prix, quitte à payer un peu plus d'intérêt les premiers mois, que d'attendre dans 6 mois ou dans
parce
un
que quand
an.
Quand les taux vont baisser, les prix vont monter.
Les prix repartent là. Mais c'est ce qu'on voit qui survient à Québec. Québec est un marché un petit peu plus dynamique, puis étrangement, que Montréal, parce que le plein emploi, évidemment, là, on le sait, les taux de chômage sont historiquement bas, et évidemment, une capacité d'acheter. Donc, c'est un peu inquiétant, évidemment, du côté acheteur, surtout pour les premiers acheteurs, de constater qu'on, avant même que les taux aient commencé à rebaisser, alors que l'économie va pas super bien, on voit ce retour-là à la pratique de la surge. Je peux-tu te raconter une anecdote, oui? Mario? J'ai acheté une grange, il y a quelques années avec
tu
mon oncle.
Tu m'as déjà compté ça, dans la région de Portneuf, c'est ça?
Dans la région de Portneuf, à Saint-Marc-des-Carrières. Je salue les gens de la région. Et c'était un monsieur qui vendait ça sur Facebook Marketplace, OK?
Une grange, avec le terrain en dessous.
Vieille grange, avec le terrain. Vieille grange pas chauffée, là, tu sais, il a fait un encan. Et j'ai gagné l'encan, 40 000 piastres que j'ai gagné. Tu sais, j'ai acheté avec mon oncle et tout ça, mais c'était très drôle parce que c'était comme juste des hommes. Puis là, on est autour de la grange, puis là, tu sais, on peut la regarder un petit peu. Puis là, il y en a un qui dit, le monsieur, il passe à 25 000, puis là, un autre qui dit 30. C'était exactement, tu sais, je pense juste qu'on
mais
peut.
Mais moi, j'ai assisté à ça dans ma jeunesse, là, des encans pour des. Non, mais dans le monde agricole, les
ben,
vaches.
Ça,
les vaches laitières, les choses se vendent à l'encan.
Donc, je possède un acre de terrain et une grange à Saint-Marc-des-Carrières. Il y a des gens qui veulent me la racheter. Non, un non,
tu dis que t'as acheté avec ton oncle.
Oui, je m'en.
Là, ben, toi, t'as une demi, j'ai ton oncle, t'as l'autre demi.
Bien vu.
Bon. Parle-moi du miracle Ozempic.
Ben, on en avait jamais parlé encore, je pense, Mario, mais non. C'est un truc que moi, je suis depuis quand même assez longtemps. C'est cette espèce de drogue miracle. Puis, tu sais, je me dis peut-être qu'un jour, je vais m'y mettre pour perdre, tu sais, peut-être un petit 10-15 livres, mais blague à part, c'est une folie,
c'est incroyable.
Mais tu sais, c'est comme dans les visions les plus fantasques du futur, il y a comme ce truc-là. Là, t'sais. Donc, essentiellement, c'est une drogue qui a été développée, un médicament, pardon, j'anglicise, qui a été développé pour soigner le diabète, initialement. Et puis, on a découvert qu'il y avait d'autres vertus.
La façon de métaboliser le sucre,
exactement.
L'appétit, et tout ça. Et donc, ça avait un impact sur la perte de poids.
Exact. Et donc là, c'est en train de devenir la folie, notamment au Québec. Donc là, il y a de plus en plus de Québécois qui s'y mettent. C'est très coûteux. Hein? On parle d'injections qui peuvent coûter entre 250 et 750 $ par mois. Là. C'est pas donc pour tous les portefeuilles. Mais essentiellement, ce que ça fait, c'est que ça coupe l'appétit puis ça change un peu notre rapport à l'alimentation. Et donc, et c'est pas comme... c'est pas la recette miracle, là, achetez-en neuf puis on va vous engager.
Non, parce qu'il y a des conséquences négatives. Là. Les gens ont des problèmes.
Ouais, mais pas tant, honnêtement. Là, sur la masse, là, puis aux États-Unis, là, c'est la folie là, dans les stars, le star system. Là, tout le monde est sur l'Ozempic. Et donc, ça s'en vient évidemment au Québec de plus en plus. Je pense qu'on va voir. Et donc, l'affaire, c'est qu'évidemment, c'est sur prescription seulement. Donc là, il va peut-être y avoir soit un marché noir ou toute une forme de tractation. En principe, c'est pas supposé être prescrit pour uniquement perdre du poids. Là, donc, c'est pas la vertu principale de ce médicament-là.
Ça a l'air assez facile d'en avoir.
Et puis, je sais pas
je
si
te confirme.
Oui, c'est ça, mais je sais pas si tu as vu, évidemment, le prix de l'action là, du manufacturier Novo Nordisk. Là.
Non, mais je veux dire... Oui, mais t'as ouais. plusieurs joueurs. T'as Eli Lilly aux États-Unis. Parce qu'il y en a plus qu'un. Il y en a deux ou trois autres.
Oui.
Mais des fois, je me dis, c'est le genre d'affaires qu'on aurait dû deviner, toi et moi, dans notre chronique.
Ouais,
le miracle pour perdre du poids, achète des actions tout de suite au début.
Moi, personnellement, Mario, j'attends encore de le moment où ce produit-là, on va dévoiler qu'il donne le cancer. Je me dis, c'est trop beau pour être vrai. Mais essentiellement, ça fait 3-4 ans que des gens prennent ça en grande quantité. Et pour l'instant, on a recelé, il y a quelques cas, là, mais tu sais, sur 99% de la population, ça n'a aucun effet secondaire et ça fait perdre énormément de poids, ce qui est quand même un objectif louable. Le prix de l'action sur 5 ans, là, quand même, est 409% d'augmentation.
C'est un bien beau rendement. énergie solaire, Hydro-Québec, qui va lancer des appels d'offres.
Oui, ben je t'en ai parlé. Il y a une entreprise de Saint-Augustin-de-Desmaures, on reste dans ma région de la Capitale-Nationale, mais qui avait fait le STACE, le Saint-Augustin, qui avait fait faillite, donc qui a été rachetée, mais donc essentiellement la filière la filière solaire au Québec est pas très dynamique, évidemment. Pourquoi? Parce que l'hydroélectricité coûte tellement peu cher, puis on a d'abord privilégié l'éolien. Ça reste intéressant, je pense, d'exploiter ça, puis de devenir un joueur moyennement significatif. Évidemment, actuellement, la fabrication des panneaux solaires est quasi monopolisée par la Chine, mais essentiellement, on a une grosse capacité au Québec à gérer l'énergie, l'électricité, et je pense qu'il y aurait quelque chose à faire. J'ai fait une petite comparaison, Mario. Le leader mondial là, en termes d'installation de panneaux solaires, savais-tu que c'était l'Allemagne?
Non.
Per capita, là, évidemment, okay. pas en valeur absolue. Et en Allemagne, en moyenne, j'ai pris Stuttgart, qui est une ville plus ou moins au sud, là, ils ont 1693 heures d'ensoleillement par année. Au Québec, on a 2555 heures d'ensoleillement. On a comme 50% plus de soleil potentiellement. Donc, je pense qu'il y a quelque chose là. Et je vais t'avouer, moi, personnellement, ça m'excite parce que je rêve un jour d'avoir des panneaux solaires sur la maison. J'ai même fait faire un devis pour installer ça sur le toit de chez nous. Ça coûte encore quand même un petit 25-30 000 $ là. Tu sais,
garde-nous au courant, on va suivre ton dossier. Merci.
Les vraies questions. Les vraies questions.
Alors, catastrophe à Baltimore, en ce pont, le Key Bridge, qui s'est effondré en cassant en morceaux après avoir été heurté par un porte-conteneur. C'est notre premier sujet à la joue des analystes avec Emmanuel, Mario, Paul. Bonsoir, vous trois.
Bonsoir, Sophie.
Bonsoir.
Bonsoir.
C'est quand même, quand on y pense, Mario, une chance là, que ça se soit produit si tard à Baltimore et pas au cœur de l'heure de pointe. Puis une autre chance que l'équipage ait pu lancer un appel de détresse.
Oui. Ça a procédé rapidement parce qu'en l'espace de quelques minutes, je ne sais pas de quelle façon le message s'est passé, mais de l'appel de détresse disant qu'on craignait de frapper les structures du pont, on a réussi à faire interrompre la circulation, donc empêcher que plus de véhicules ne viennent se mettre en danger sur le pont. Il a resté finalement là, les pauvres travailleurs là, qui étaient vulnérables. Mais oui, on a d'une certaine façon évité le pire, mais c'est quand même une tragédie un peu inimaginable. Bon, plusieurs... Quand même, ça nous a permis à nous de mesurer la solidité, de se questionner sur la solidité de nos propres infrastructures. Puis nos gens d'ici regardent ça là-bas puis sont étonnés que les piliers du pont n'étaient pas davantage protégés. Là.
Ben oui, puis c'est assez étonnant, Emmanuel, de voir le pont se fracturer là, à partir du moment de l'impact là, à 4-5 endroits. D'ailleurs, ce sera un des objets de l'enquête, là.
Ben très très certainement, c'est une chose de dire que les piliers du pont étaient pas adéquatement protégés comme on nous dit qu'ils le sont ici au Québec, mais c'est vraiment comme si c'était un pont bâti en bâton de popsicle là. Donc c'est sûr que c'est absolument fascinant. Moi, je pense que avant de tirer des conclusions sur si nos ponts sont bien protégés, pas protégés, s'il y a vraiment pas matière à s'inquiéter au Québec, on pourrait peut-être attendre les conclusions générales de cette enquête-là, parce que ça me fait un peu penser aux accidents d'avion. C'est assez fréquent quand il y a des accidents d'avion, par la suite, les détails de l'enquête finissent par amener des leçons qu'on applique à l'ensemble du monde de l'aviation. Puis c'est la raison pour laquelle c'est si sécuritaire maintenant. Donc, est-ce qu'à terme, quand l'enquête sera terminée, il y aura des ajustements à faire au Québec? Je pense qu'il ne faut pas l'exclure.
Ouais. On peut pas, en tout cas, pas s'empêcher de penser à nos ponts ici, Mario le disait, à notre trafic maritime. Puis les autorités n'ont pas perdu de temps là, pour rassurer tout le monde au sujet de la conception des ponts, des mécanismes de protection qui existent. On écoute un capitaine.
Pour rassurer les gens, les infrastructures que nous avons sur le fleuve Saint-Laurent sont bien protégées. Il y a des enrochements dans le cas de certains ponts. D'autres ponts, les piliers sont... Je prends l'exemple du pont Pierre-Laporte. Les piliers sont sur la terre ferme, sur le côté, donc un navire ne peut pas se rendre jusqu'aux piliers. À Montréal, dans le cas du pont Jacques-Cartier vers la voie maritime, les piliers sont à proximité des navires. Par contre, ils sont massifs, ils sont protégés par des bases de béton. Et ce sont de plus petits navires que ce qui est en cause à Baltimore qui circulent à cet endroit-là et à des vitesses vraiment moindres.
Quand même rassurant, Paul.
Oui, mais il faut dire que ce sont des capitaines du port de Baltimore là, qui étaient aux commandes du navire aussi. Puis, je suis convaincu, comme bien des gens, aux petites heures ce matin, en voyant ces images-là, c'était incroyable. On a l'impression de voir un mauvais film de série B, alors que ça venait de se produire. Et bien des gens ont dû faire la même chose ce matin, ceux qui passaient aux abords de quelques ponts que ce soit au Québec, de regarder un peu la base, comment c'était fait. Et effectivement, c'est étonnant que le principe même de protection de l'enrochement qui a été ajouté au pont La Violette à Trois-Rivières que dans les années 80, mm-hmm. d'ailleurs, parce que c'est donc dire qu'on était très, très vulnérables de ce côté-là. Il y a quand même un trafic ouais. maritime important du côté de Trois-Rivières. Mais effectivement, il y aura l'enquête. On verra l'avarie technique et ensuite la fragilité des installations de ce pont-là. Est-ce que c'est le cas ailleurs, aux États-Unis également? Mm-hmm. Ça nous replonge, nous. On n'a pas de leçon à donner aux Américains. Rappelons-nous d'autres tragédies comparables. Le viaduc de la Concorde, par exemple. Ouais, il y avait eu enquête et correction qui avait été, enfin, mm-hmm. on l'espère, qui avait été apportée par la suite.
En effet. En tout cas, on aura tous les développements sur cette catastrophe sur toutes nos plateformes dans les prochains jours. Maintenant, un sujet qui nous met en appétit ce soir, vraiment. Un CHSLD qui était infesté par des coquerelles. Des exterminateurs qui sont intervenus à une soixantaine de reprises au CHSLD de Cartierville, dans la cuisine, dans les chariots de nourriture. L'exterminateur qui a émis des recommandations sur le ménage ou le colmatage de fissures. On écoute l'exterminateur en question.
Depuis le début, dans les recommandations, le colmatage était quelque chose d'important. Et ça a pris au moins un an avant que ça soit fait et ce n'était pas été fait partout et surtout, ça n'a pas été fait à mon goût depuis le début que je mettais dans les rapports à tous les semaines.
Tout se lit sur ton visage, Emmanuel, en plus d'être dégoûté. Es-tu surprise?
Je veux dire, je suis surprise puis je ne suis pas surprise.
Ouais.
À partir du moment où le ministre Dubé n'est pas capable de faire appliquer les recommandations de la cellule de crise sur comment désengorger des urgences parce que certains hôpitaux décident de faire à leur tête, est-ce qu'on peut vraiment être surpris qu'un CHSLD décide de faire à sa tête puis de pas vraiment faire l'impossible qu'il faut? C'est comme si c'est un exemple de plus qui nous amène à se demander si finalement on n'a pas un réseau de la santé où tout le monde fait à sa tête, où on suit pas les règles puis advienne que pourra.
Ouais. C'est autre élément. Malgré tout ça, le CHSLD de Cartierville n'a jamais pensé fermer la cuisine ou relocaliser la cuisine. Et les résidents n'ont pas non plus été informés de la situation, là, Paul.
Moi, j'appelle ça une faillite morale. Là. Puis, quand on regarde ces nouvelles-là, imaginez si c'est votre mère ou votre père qui réside dans ce CHSLD. Vous verrez les choses différemment. Mais où étaient les employés et où étaient surtout les responsables? Vous savez, Sophie, on dit souvent qu'on mesure l'avancement d'une société à sa capacité de prendre soin des gens vulnérables. On était où? On était où dans ce cas-là, encore une fois?
Et le MAPAC, en tout cas, est intervenu. Y a-t-il eu des amendes? On ne le saura jamais, Mario.
Ben, qu'est-ce qu'une amende à une institution publique comme ça, qui vit essentiellement avec l'argent des résidents, avec l'argent public? Moi, la question qui me vient, c'est est-ce que ces gens-là sont vraiment dépassés? Là? Trop d'ouvrages, dépassés par les événements, débordés? Est-ce qu'ils sont sans moyens ou est-ce qu'ils s'en foutent carrément? Ouais. Est-ce que c'est des gens qui, à un moment donné,
c'est pas grave,
t'en passes par-dessus la tête? Ouais. C'est pas grave, c'est ça.
Enfin, le ministre Éric Kerr a tenté de rassurer tout le monde aujourd'hui concernant l'utilisation de la reconnaissance faciale. On en parle au retour.
Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
Alexandre, ça foisonne ces semaines-ci, les phénomènes animaliers.
Ben oui, puis particulièrement les nouvelles de cétacés, Mario, et allons-y avec une observation qui a été faite le 19 mars dernier en Australie et qui est expliquée là, de manière un peu rétroactive par les chercheurs qui ont observé une scène hors du commun. Là. On se trouve là dans un endroit où ça foisonne de biodiversité. Là, on appelle ça le canyon de Bremer, tout près de l'Australie occidentale. Et à cet endroit-là, ben, il y a chaque année à peu près 100 orques, hein, ces animaux-là marins, massifs, carnivores et assez intelligents, merci, mais qui reviennent année après année. Et là, ben, il y a un bateau, une excursion de touristes, comme on peut en voir, par exemple, dans le Bas-Saint-Laurent, qui est sur place pour observer les animaux. Et là, scène absolument ahurissante, alors qu'on a un troupeau, là, 30 orques qui décident de se mettre à la chasse, mais pas des petites proies, Mario, là, au carnassier le plus gros de toute la planète, un cachalot. Des cachalots qui sont en groupe avec un bébé. Et ça, juste ça, c'est absolument rarissime. Là. Ça arrive jamais que des orques vont essayer de manger des cachalots. Mais là,
cachalot, ça pèse genre 40 tonnes, 50 tonnes.
40 tonnes. C'est le plus gros carnassier de la planète là, en termes de taille et de poids, Mario. Et pourtant, les orques en gang se sont attaqués à eux. On trouvait entre autres un veau là, qui faisait partie du troupeau, donc un bébé, et essayait de le manger. Ouais. Et là, ben, les gens ont pu observer ça alors que les cachalots ont fait une rosette. C'est comme ça qu'on appelle ça. Comme une espèce de regroupement défensif avec le visage vers l'extérieur, comme en espèce de cercle, pour se défendre contre les orques. Et là, Mario, attention, autre observation absolument rarissime, il y a une espèce de geyser complètement rouge, rougeâtre. On peut voir des images, Mario, je vais te les montrer à l'écran pour ceux qui regardent à la télévision. Un espèce de nuage qui se propage dans l'eau, qu'on voit apparaître, et un instant après, tous les orques déguerpissent dans toutes les directions. C'est ce qu'on appelle, Mario, une déjection défensive. Ils ont fait caca dans l'eau, puis ils ont poussé ça avec leur queue partout autour, puis ça a tellement dégoûté les orques qu'ils ont sacré leur camp.
Donc les cachalots se sont protégés
avec une défécation défensive. C'est absolument rarissime de voir ce phénomène-là. Puis au départ, les gens des bateaux criaient parce que c'était comme rouge dans l'eau, puis ils se demandaient, mon Dieu, il y en a un qui saigne, il y en a un qui a dû mourir. Mais non, c'est rouge parce que les cachalots s'alimentent particulièrement de quoi? Ben des calmars et des calmars géants dans le fond de l'eau, ce qui donne une couleur rougeâtre à leurs excréments. Ce qui fait en sorte qu'on a vu tout ça. Donc, phénomène rarissime qui est maintenant disponible en vidéo.
Ils ont eu une excursion pas plate, eux, là.
C'est sûr que non.
Merci.
Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération.
On apprend aujourd'hui que la SAC relance un projet de reconnaissance faciale. Le ministre Kerr, on a entendu, a dit que c'est plutôt un projet de gestion documentaire. Les oppositions veulent une commission parlementaire.
Emmanuel n'a pas l'air à le croire. Hein?
Non, elle n'a pas l'air. La commission d'accès à l'information aussi veut un débat public. Et vous, Emmanuel?
Sophie, on peut bien appeler ça un projet de gestion des données, de je sais pas quoi. Si ça miaule comme un chat, puis ça ronronne comme un chat, c'est un chat.
Ça
quand
minou.
Tu prends de l'intelligence artificielle pour comparer des photos de deux faces pour voir si c'est la même face, ça s'appelle la reconnaissance faciale. Là. Et la réalité, c'est que moi, je veux bien que la commissaire à l'information est déjà là-dedans, mais l'enjeu, c'est qu'il y a un débat à avoir sur si le risque en vaut la chandelle. Il faut évaluer les garanties sur le fait que ce ne sera pas ensuite utilisé à un autre escient.
Voilà.
Et je ne vois pas comment le ministre Kerr peut oser dire aux Québécois, « Faites-vous-en pas, rien à voir ici, rien à voir ici. » La chose à dire aujourd'hui aurait été, « C'est un projet, c'est important, on le fait raisonnablement, ouais. Et je comprends les inquiétudes des gens et on va vous rassurer. »
Ben, il a fait tout le contraire. Il a dit que c'est une bonne idée, le débat. Bon, cela dit, bon, ça peut éventuellement, hein, Paul, mener à l'identification numérique. Ça peut servir à plusieurs autres services gouvernementaux aussi. Là.
Ben, exactement. Est-ce le début de quelque chose? Puis, que voulez-vous? Ça pose l'autre question, qu'en est une de confiance à l'égard de la SAC et du ministre responsable également. Ça ramène la vieille phrase, tu sais, en politique, quand tu n'es pas cru, tu es cuit. Alors, donc, dans le cas de M. Kerr, la beau dire, c'est une tempête dans un verre d'eau, tout ça. Est-ce que les gens ont confiance? Parce que quand même, évidemment, la technologie évolue. Mais vous savez que la reconnaissance faciale, la technologie n'est pas parfaitement au point non plus. Il y en a qui sont des experts qui ont des doutes là-dessus. Là. On va en parler au bilan ce soir à 19h. Mais en même temps, est-ce que c'est le prélude à autre chose? Je pense que les risques sont tels que ça mérite d'avoir des réponses claires, précises. Et un débat là-dessus d'acceptation ou non.
Écoutez, le bilan pour la suite. Mario, je veux t'entendre. Les yeux ont dû te sortir de la tête hier soir quand tu as entendu ses parents crier des insanités à une jeune arbitre, là, un petit samedi matin tranquille dans une aréna de Mirabel. Tout ça devant leur progéniture de 11-12 ans. Ça s'appelle donner l'exemple, j'imagine.
Ouais, mais j'ai surtout eu une pensée pour Jocelyn Thibault, là, qui était directeur général de Hockey Québec, qui a quitté... Je l'ai reçu en entrevue, quand même, on le sentait un peu déçu et amer. Bon, fier d'avoir essayé de faire un bout, mais sentant qu'il a pogné un nœud là, en matière d'essayer de changer la mentalité, changer les façons de faire dans le hockey en particulier. Et je repensais à lui, je repensais à ses efforts. Je me disais, ouais, lui, quand il voit des nouvelles comme ça, il doit vraiment... Je serais tenté de dire aussi aux gens du monde du hockey... Faites attention, là, c'est de plus en plus dur, de plus en plus difficile à trouver. Un jour, vous en trouverez carrément plus des arbitres. Ce jour-là, ça va être dur juste de faire des matchs.
Oui. On se demande, on regarde ça, où est passé ce savoir-vivre, hein? Le vivre ensemble sportif, la saine compétition. Ouais. On n'est pas censé s'amuser, en plus, dans ces matchs-là.
Mais non, mais c'est parce qu'on ne peut pas se surprendre qu'il y ait tant d'intimidation dans les écoles, sur les réseaux sociaux et tout le reste, quand il y a des parents qui pensent vraiment... Voilà. Que c'est adéquat de se comporter comme ça devant des enfants. Puis moi, je m'excuse, il y a peut-être de la résistance au sein du monde du hockey, mais à un moment donné, ces parents-là, il va falloir les punir puis trouver une façon de les exclure de la présence dans les arénas. Il n'y a rien d'autre à faire, là.
Ouais. Vous, ça prendrait peut-être un baillon. Avez-vous vu le champion des déclarations menaçantes, incendiaires et dénigrantes, Donald Trump, qui ne pourra pas s'attaquer à tout le monde au procès Stormy Daniels? Le juge en a décidé ainsi. Mm. Parce que ce matin, sur son réseau Truth Social, suite à la décision d'ouvrir le procès le 15 avril, Trump avait attaqué le juge, sa fille et tutti quanti.
Oui, c'est ça. Et c'est une suite, c'est pas la première fois. Mais comment il faut reconnaître à Trump sa capacité, au fond, de dire à peu près tout ce qu'il veut? Parce que moi, j'ai l'impression, quand on met bout à bout là, tout ce qu'il a dit sur les juges, sur l'appareil judiciaire, sur le système judiciaire, n'importe qui se serait fait accuser, il y a longtemps déjà, d'outrage au tribunal. Mais il jouit déjà d'une sorte, sans l'avoir obtenu ou une reconnaissance comme telle par les tribunaux, il jouit quand même d'un traitement privilégié. Parce que je suis convaincu que le commun des mortels aux États-Unis dirait la moitié de ce qu'il a dit à propos d'un juge et finirait tout de suite derrière les barreaux.
Oui, s'il va respecter cet ordre de la Cour en passant, hein, parce que...
Probablement pas.
Il fait ce qu'il veut. Merci beaucoup. À vous trois, on se retrouve demain.
Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société.
On parle de sport. Jean-François, le Canadien affronte l'Avalanche ce soir et avec son entraîneur-chef.
Oui, l'entraîneur-chef qui est revenu dans le giron de l'équipe hier, était très impressionné par le travail de ses joueurs. On a compris qu'il a quand même regardé les matchs du coin de l'œil pendant qu'il était au chevet de son fils. Il a dit qu'il avait été impressionné par le travail de sa femme aussi. Donc, il a rendu hommage à toute son équipe, autant son petit cocon familial que l'organisation du Canadien, que ses joueurs. Il a donné d'ailleurs des nouvelles aujourd'hui de son fils. Il dit que bon, il est à la maison, ça suit son cours. Il n'a pas dit qu'il était sorti d'auberge, là. Il n'est pas près d'un retour sur la patinoire, mais assez pour qu'il puisse revenir.
Mais on ne sait pas trop ce qui est arrivé, là. Est-ce qu'il y a des risques de séquelles permanentes? Il a fait une chute ou une collision importante sur la glace en troisième période d'un match?
Écoute, il y a quelque chose qu'on nous dit pas, disons ça comme ça. Puis visiblement, parce qu'hier, dans son communiqué, il a clairement dit que on allait s'enligner pour des questions sur l'équipe. Là. Fait que je pense qu'aujourd'hui, il en a parlé légèrement. C'est tout ce qu'on va savoir. Donc,
on sait que son fils est de retour à la maison, ça, c'était dit.
Exact, qui est hors de danger. Mais est-ce qu'effectivement, est-ce qu'il peut garder des séquelles de ça? Est-ce qu'il peut... On sait rien. Qu'est-ce qui est arrivé exactement sur la patinoire? C'est à quelle partie de son corps?
Est-ce que c'est cérébral, le dos? Hein, c'est ça. Là. Est-ce que c'est juste des blessures graves, physiques, mais réparables? Ou est-ce qu'il pourrait avoir des dommages? Là? C'est ça qu'on ignore. Là.
Ben, c'est sûrement, comme tu dis, moi, j'ai pensé soit à la tête ou soit à la colonne. Parce que, tu sais, je veux dire, une cheville, un poignet, d'un, il n'aurait pas quitté l'équipe pour ça, puis sa femme l'aurait tenu, tu sais, dire, ben là, il va se faire mettre des plaques puis des vis, là, tu sais. Fait qu'il faut que ce soit quelque chose qui aurait pu mal tourner, puis qui peut-être encore peut avoir des séquelles de ça. Bref, il n'a pas envie qu'on en parle, visiblement. Il veut garder ça, il a dit dans l'ordre. Il est passionné de deux choses, sa famille et le hockey, puis il a tenu à souligner que c'est dans cet ordre-là, donc famille avant hockey. Donc on va respecter ça. La bonne nouvelle, c'est qu'il est de retour. Pas sûr qu'il va savourer la victoire ce soir, par exemple.
Ouais, parce que le Canadien a une grosse commande.
Écoute, l'Avalanche du Colorado, là, c'est 9 victoires consécutives, 28 victoires à domicile en 34 matchs. Je donnais les statistiques ce matin à Alexandre dans ma chronique. Là. Ils ont 269 buts, pour te donner une idée. Marqué, le Canadien en a 194. Fait qu'on est presque à 75 buts de plus. En fait, on est à 75 buts de plus que le Canadien. Ils en ont encore des moins, bien évidemment. Puis au classement, ils ont 97 points, on en a 64. C'est une équipe qui vise cette année rien de moins que la Coupe Stanley. Et la bonne nouvelle pour eux, c'est que leur leader incontesté, Nathan MacKinnon, est en santé. T'sais, il y a eu souvent des petites blessures, lui, qui l'ont empêché d'avoir de grandes statistiques en cours de saison. Là, il est en santé, il est en voie de connaître sa meilleure saison en carrière.
Gagner le championnat général des marqueurs?
Pardon?
Il est en voie de gagner le championnat des marqueurs de la Ligue?
Présentement, il est 122 points, puis c'est Kucherov qui est deuxième à 117. Fait qu'à moins d'une poussée de Kucherov ou de McDavid est dans le portrait aussi, là, mais je verrais pas pourquoi, à moins qu'il se blesse puis qu'il joue pas les 10 dernières parties, là, mais sinon, Nathan MacKinnon, surtout avec la machine offensive, avec un Makar, avec un Rantanen, avec un Drouin qui va bien, je verrais pas pourquoi ce serait pas lui. Puis
Drouin, il va vouloir... Tu sais, il a fait des étincelles dans les 10 derniers matchs et sur une lancée. Puis le Canadien arrive dans son nouveau chez lui au Colorado. C'est impossible que dans sa tête, il se dise pas, il m'a leur montré de quoi je suis capable à soir.
Ça, c'est sûr. En même temps, j'ai lu ça. Il a dit qu'il jouait probablement le meilleur hockey de sa carrière. Il a l'air bien. Mais il a dit qu'il pense moins au Colorado, qu'il ressent moins la pression.
Fait que s'il s'en met pour un soir, c'est peut-être pas bon.
C'est exactement ce que je me suis dit, Mario. Je me suis dit, le piège pour lui, c'est de se dire, hey, ce soir, je vais montrer à tous les Québécois, Québécoises que j'aurais pu être bon avec le Canadien, que je suis un bon joueur, tout ça. Puis s'il se met cette pression-là, c'est peut-être là que malheureusement, ça va lui porter malchance. Bon, il souhaite pas de malheur. On souhaite pas qu'il en mette trois dedans contre le Canadien non plus ce soir. Mais c'est une grosse, grosse commande. Puis là où je m'en allais tantôt, c'est que Nathan McKinnon, là, j'ai hâte de voir le vote des joueurs pour le meilleur joueur de la Ligue. Il faut qu'il soit considéré. Là. Présentement, tu pars une équipe pour aller au bout en série. Je pense que je prends McKinnon avant McDavid parce qu'il est plus complet. Il a déjà gagné. T'sais, ce soir, je sais que le match est tard, mais si vous avez la chance, vous allez voir à quel point c'est un bœuf. Là. Il est gros, il est fort, il est dur à tasser. Là.
Mais ce qu'on dit aussi, c'est que McDavid fait des jeux individuels impressionnants, peut-être plus impressionnants, mais que McKinnon structure. Là, les quatre autres joueurs sur la glace deviennent tous vraiment un peu meilleurs du fait d'être sur la glace. Il structure le jeu d'une manière un peu unique.
Ouais, puis il est plus, moi je le trouve plus pesant sur ses patins. Là. Il est capable de pencher l'épaule puis rentrer. Mais cela dit, McDavid, c'est sa pire saison côté but et il a dit exactement ça. Il est en train d'essayer d'apprendre à être un meilleur joueur pour gagner une Coupe Stanley. C'est bien le fun de ramasser les honneurs individuels, les buts, les passes. Mais si tu veux te rendre loin, il est en train d'apprendre ça cette année. Il l'a dit, il l'a dit encore récemment. Fait que ça va être un bon match et c'est Montembeau, évidemment, devant le filet du Canadien ce soir. Primo a eu le dernier départ. Grosse équipe ce soir, donc gros défi pour Samuel Montembeau. Je vous rappelle que le match est malheureusement en soirée.
Puisqu'on parlait du Québécois Jonathan Drouin, il y a eu un vote entre les joueurs québécois de la Ligue pour savoir qui est le meilleur?
Ben, il y a ça à chaque année. On fait un sondage parmi la Ligue nationale pour savoir qui est le meilleur joueur. Ça sera connu éventuellement. Puis là, on s'amuse à faire parmi les Québécois. Fait que les Québécois votent entre eux pour le meilleur joueur. Depuis quelques années, depuis qu'on fait ça, c'est Patrice Bergeron à chaque année qui allait chercher la palme. Mais là, cette année, c'est Jonathan Marchessault. Qui a été élu meilleur joueur québécois.
Avec les séries éliminatoires qu'il a connues l'an dernier, ça a du bon sens, là.
Exactement. Puis c'est un joueur qui trouve toujours le moyen de tirer son épingle du jeu. C'est un fin marqueur, là. Il n'y a pas besoin de 12 chances pour le mettre dedans. Donc, c'est un petit jeu. On s'entend que ça apporte absolument rien à sa carrière, mais ça fait un petit velours. Deuxième, c'est Chris Letang. Troisième, Marc-André Fleury. Quatrième, Mike Matheson du Canadien de Montréal.
Ouais. Ah, quand même.
Sorti quatrième. Mais je pense que les joueurs dans la Ligue regardent aller de plus en plus, puis je pense qu'il est en train de gagner beaucoup de points. Là. La poussée qu'il a fait sur le cinquième but cette semaine. Ouais. Là,
non, mais c'est défensivement. Je sais que le Canadien, il demande beaucoup, puis c'est un joueur plus offensif, puis on le fait jouer contre les meilleurs de l'autre équipe. Mais il était moins, l'autre jour, je regardais, il était moins 34. Il est vraiment, là. Il fait beaucoup de points, il fait beaucoup, beaucoup de passes, il fait des beaux jeux, c'est un beau patineur, mais il y a des buts qui se comptent pendant qu'il est sur la glace, un peu un autre, là.
Oui, il joue trop, puis peut-être qu'il ne devrait pas jouer contre le meilleur trio adverse. Si on avait des spécialistes de la défensive, peut-être qu'on devrait y enlever ça. Puis Huberdeau est cinquième, c'est ça le top 5 des Québécois.
Et on a retrouvé, je me souviens de cette histoire que tu nous as racontée la semaine passée, à la veille d'une espèce de match où on devait donner un cadeau aux partisans des Penguins de Pittsburgh. On avait perdu les bobbleheads de Jaromir Jagr. C'est retrouvé.
Il y a eu comme toute une semaine de célébration. On a retiré son numéro. Jagr a même patiné pendant l'échauffement avec ses coéquipiers. Et une semaine plus tard, on donnait un cadeau genre aux 5000 premiers arrivés, un bobblehead de Jaromir Jagr. Et la livraison ne s'est jamais rendue.
Était perdue?
Ben, ils ont même dit voler. Et là, ils l'auraient retrouvé, mais... Ben, en fait, les Pingouins ont annoncé qu'ils ont retrouvé. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce que ça a été égaré? Est-ce que ça a été volé? Est-ce qu'on a... On a dû payer quelque chose pour les avoir, on ne sait pas, mais ils ont dit que ça allait être livré parce que les gens sont partis avec un numéro. Mettons, moi, j'ai été le 8e dans l'aréna, donc j'ai droit à mon bobblehead. Donc, ça va être livré aux gens qui se sont rendus sur place. Mais on ne sait pas qui est parti avec, genre, 5000 bobbleheads.
Il y a encore du mystère pour les journalistes d'enquête de Pittsburgh. Parle-moi de l'histoire de Shohei Ohtani, super vedette, qui s'est retrouvée dans la controverse de Paris Sportif.
Ben, il se retrouve encore dedans. En fait, c'est lui, il y a un interprète. parce qu'il ne parle pas anglais. Donc, il y a un interprète qui le suit toujours. Et l'interprète a fait du pari sportif. L'interprète s'est mis dans le trouble, devait quelques millions à un bookmaker, un teneur au livre, je ne sais pas comment on traduirait ça.
T'as bien dit quelques millions.
Ouais.
Et quelques millions.
Ouais, quelques millions.
C'est beaucoup, ça.
Je pense que c'est 1,5 million.
Ah.
Et là, ben, Shohei Ohtani, qui a des millions, ça y sort par les oreilles, ben, il a remboursé pour lui. Sauf que là, ça paraît mal, parce que Shohei Ohtani n'est pas supposé payer un gars qui prend des paris sportifs.
Fait que là, c'est les comme gens, si fait, lui avait payé du pari sportif indirectement, là.
Exactement. Et là, quand ils ont su ça, ils ont fait porter le blâme au traducteur. Ils ont dit qu'il avait volé Shohei Ohtani, qu'il s'est servi dans son compte de banque, puis c'est comme ça qu'il a réussi à rembourser. Mais là, ça faisait comme pas de sens. Comment tu peux dérober un 1,5 million dans le compte de banque de quelqu'un, là, tu sais, on est chum ensemble, Mario, mais je pourrais pas aller chercher ton argent dans ton compte de banque, puis je sais
un million
pas combien
et demi.
Tu tiens dans ton compte de banque, tu sais.
À part ce qu'elle serait, un million et demi.
Fait que là, ils ont changé la version, ils ont dit non, mais c'est parce qu'ils voulaient l'aider, puis c'est lui qui a donné, puis fait que là, ça sent le mensonge à
mais
plein nez.
Mais est-ce qu'il pourrait être suspendu, ça serait un événement...
Ben, c'est sûr qu'il va avoir enquête, c'est sûr qu'il pourrait être suspendu, puis c'est sûr qu'honnêtement, ton interprète, donc qui est avec toi dans le vestiaire, qui sait tout sur l'équipe, qui fait du pari sportif, c'est
limite
pas
aussi.
Fort,
ouais.
C'est
ça va être
pas
une histoire. Ça va être une histoire à suivre. Hey, merci Jean-François.
Salut.
Bye bye.
Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
La suite d'un accident l'enquêteur qui a suivi l'accident a lié directement les conséquences désastreuses de cet accident-là au non-port de la ceinture. Et là, il y a de plus en plus de jeunes, semble-t-il, qui portent pas la ceinture, de telle sorte que le coroner recommande de suspendre le permis de conduire des usagers de la route qui ne bookent pas leur ceinture de sécurité. Donc, l'enquête sur la mort de ce jeune homme de 25 ans est devenue un débat de société. Maître Éric Lamontagne est avocat spécialisé en défense d'infractions au code de la route. Maître Lamontagne, bonjour.
Bonjour, M. Dumont.
Est-ce que ça vous apparaît extrême, suspendre le permis pour un non-port de la ceinture?
Oui, tout d'abord, évidemment, tout ça sous réserve, là, évidemment, de la sympathie que j'ai pour toutes les gens qui se tuent dans des situations, circonstances si tristes. Il en demeure pas moins que ça serait un peu, comme on dit, tuer une mouche avec un bio. C'est-à-dire que si on regarde principalement les options qui s'offrent avant d'en venir à une suspension de 90 jours comme ça, il y en a quand même plusieurs. Et je prends l'exemple du cellulaire au volant. Vous savez, pareil comme moi, que c'est une infraction éternelle, c'est-à-dire que l'augmentation de l'amende, on a augmenté les points d'inaptitude, on a maintenant mis des suspensions. Et dans ce contexte-là, je me demande pourquoi on peut... évidemment, je comprends, on est tous pour la vertu sur les routes, mais ce que je veux dire, c'est que 90 jours, il faut y penser une seconde, pour un cellulaire au volant, si on a une récidive de cellulaire au volant, on va avoir une suspension de 3 jours, une autre, une troisième récidive, etc., ça passe de 3 jours à 30 jours maximum de suspension de permis de conduire après plusieurs récidives. Alors, premièrement...
Ça devient, selon vous, ça devient disproportionné, là.
C'est disproportionné. Ouais.
La question que je me posais, Maître Lamontagne, c'est que le non-port de les autres affaires pour lesquelles on est très sévère, l'alcool au volant, le cellulaire, c'est la crainte. Exemple, quelqu'un sur son cellulaire frappe un autre usager de la route. Quelqu'un est chaud, frappe un autre usager de la route. Le non-port de la ceinture, on voit que ça devient un problème de sécurité parce qu'il y a des gens qui perdent la vie inutilement dans un accident qui n'aurait pas dû les tuer. Mais ça reste, c'est leur sécurité. C'est pas, la ceinture ne met pas en danger la vie d'autrui.
Exactement, c'est une constatation dont j'allais vous parler, c'est-à-dire que là, on ne parle pas nécessairement du comportement routier, on parle d'un élément de sécurité dans le véhicule et qu'un choix soit de ne pas l'apporter ou de ne pas l'apporter correctement, n'oubliez pas, il y a des gens qui l'apportent par-dessus l'épaule, ils ont des problèmes, peu importe. Dans le contexte, là, vous avez mis le doigt directement là-dessus, c'est-à-dire que le comportement routier, c'est-à-dire on peut avoir un cellulaire au volant, on va avoir une distraction, on va causer un accident, on n'en mourra peut-être pas si on est attaché, mais il en demeure pas moins que il y a une différence entre, en fait, tout avoir placé, autrement dit, tout avoir pris les mesures nécessaires pour être en sécurité versus la manière dont on se conduit sur la route. Et je pense que dans ce cas-là, si on veut vraiment attaquer ça...
Ouais. Oui, mais est-ce qu'il y a des risques à être trop sévère? Est-ce que ça peut amener des comportements, des distorsions, faire des choses bizarres aux gens si une loi devient démesurément sévère, votre expérience?
Je vous dirais qu'à ce moment-là, on entend souvent les récriminations des gens. Là, j'entends souvent les gens, entre autres, pour les cellulaires au volant. J'en reviens pas, j'ai eu une amende de 300 $, j'ai eu 5 points d'inaptitude. Je pense que c'est un chemin à envisager avant de penser à y aller avec des suspensions. Également, d'attaquer les récidives, M. Dumont, c'est, tu sais, arriver à partir de zéro à 90 jours de suspension de permis de conduire, je peux comprendre que les conséquences sont vraiment très tragiques, mais ce n'est pas la même chose que vraiment avoir une conduite erratique, par exemple.
On a soudainement perdu la communication avec M. Maître Lamontagne. Remarquez que j'avais fait pas mal le tour du sujet. Alors, clairement, pour lui, ça paraît exagéré. Je dois avouer que moi aussi, là, je comprends que ce coroner... Ce matin, je parlais avec quelqu'un du CA Québec qui me disait peut-être faudrait commencer par faire des campagnes de sensibilisation. Il y a toute une génération, les plus jeunes. Il y a bien des années, on avait poussé ça, la ceinture. Ça fait peut-être, je sais pas moi, 20 ans, 25 ans qu'il n'y a pas eu de grosses campagnes de sensibilisation. Alors, faudrait le faire penser puis peut-être de présenter des statistiques sur l'importance. Merci d'avoir été là. Bonne soirée. On se retrouve demain.